Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Parentalité. À chaque émission, je recevrai des invités différents, jeunes, parents ou professionnels, pour se poser des questions sur des questions en lien avec l'éducation. Aujourd'hui, j'ai un super plateau que je vous invite à découvrir tout de suite. Qui es-tu ?
Alors bonjour, moi je me présente, je m'appelle Amine Boutou. J'ai 18 ans, je suis un jeune acteur réalisateur. Dernièrement, j'ai eu la chance et l'opportunité de réaliser mon premier court-métrage qui a pour nom Frère de sang, qui a comme thématique les choix, les rêves en milieu urbain, dans les quartiers de France. On aborde aussi la thématique des rixes interquartiers, des problèmes que ça peut aborder, comment, quelle alternative on peut avoir face à ce genre de problème et comment s'en sortir. À côté de ça, j'ai fondé mon association de cinéma, qui va permettre aux jeunes issus de quartiers ou même en dehors qui aiment le cinéma et qui ne savent pas comment se lancer, comment découvrir ce métier, avec moi, ils vont pouvoir le découvrir.
Merci Amine, très beau parcours. Ensuite, on ne te présente presque plus, mais si, c'est un honneur pour nous. Adama.
Merci. Adama Camara, président de l'association SADA, Solidaire Agissons Dès Aujourd'hui. Créateur aussi de la série Rix, des épisodes, une série qui est consacrée aux témoignages, beaucoup des familles de victimes de Rix interquartiers, de jeunes aussi incarcérés ou blessés. Auteur aussi du livre 55-852 où je raconte aussi mon parcours. Et aujourd'hui, je fais des sensibilisations dans les établissements, centres de détention pour mineurs aussi, PJJ, Protection Judiciaire de la Jeunesse, et on a aussi monté un module chez les CM2 parce qu'on s'est rendu compte que malheureusement, tout ce qui est réseaux sociaux, violence, etc., ça commence de plus en plus tôt. Au collège, c'est déjà presque trop tard. Donc après, on aura le temps d'en parler.
D'en discuter, merci beaucoup. Mais alors, on a la voix féminine du plateau. Qui es-tu, chère demoiselle ?
Alors bonjour, moi je m'appelle Milaï, j'ai 25 ans. Actrice et réalisatrice. Et parallèlement à ça, j'accompagne aussi beaucoup de jeunes à découvrir ce métier-là. Et je les pousse à croire en eux et à saisir les opportunités et à se créer eux-mêmes des opportunités.
Merci Milaï. Brandon, alors tu es chez toi ici en plus.
Donc bonjour à tous. Donc moi je me présente, Brandon McIndu. Je suis coordinateur jeunesse dans une structure d'éducation populaire dans le 13e arrondissement de Paris. Je travaille pas mal avec des jeunes et du coup je me pose plusieurs questions, notamment au travers de leur comportement qui peut être parfois très violent, alors que ce sont des personnes en or, je trouve. Donc voilà.
Avant de présenter nos chroniqueurs, avant qu'ils se présentent, on a un dernier invité. Comment tu vas ?
Ça va super. Bonjour à tous. Je m'appelle Hassan Asso, je suis préparateur mental de la région parisienne, mais aujourd'hui j'habite à Bordeaux. Et du coup, je m'occupe des sportifs et aussi en entreprise, dans l'accompagnement, tout ce qui est sujet au biais cognitif. Et à côté de ça, je suis auteur d'un petit livre qui s'appelle « Les pouvoirs de nos super-héros » pour justement le développement
de nos jeunes. Je vais le refaire.
J'ai eu la chance justement de te rencontrer via les réseaux. Exactement. Et j'ai lu ce petit ouvrage et ça rejoint un peu ce que Adama disait sur justement la prise en charge des plus jeunes. Merci de t'être déplacé et d'avoir... l'occasion de venir parce que tu viens de Bordeaux, comme tu l'as dit. Et nous avons nos chroniqueurs qui mettent les pieds dans la tasse. Bouba et Barberiche, présentez-vous.
Bonjour à tous, c'est Barberiche, chroniqueur de cette belle et merveilleuse émission.
Bouba, chroniqueur de cette belle émission.
Voilà, Bouba, lui, il a compris que s'il m'attaquait d'entrée de jeu, ça n'allait pas le faire. Mais apparemment, il y a des têtus ici. Je pense qu'il est temps d'annoncer la thématique. Ces dernières années, on parle beaucoup de violence chez les jeunes, harcèlement, rixes, règlement de compte, bagarre, agression. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais l'idée, c'est peut-être d'en parler et de faire un diagnostic de terrain tous ensemble. Qui se lance ? Phénomène de violence, qu'est-ce qui se passe ?
phénomène de... je vais prendre la parole. Allez, phénomène de violence, de rixe, il y en a toujours eu, malheureusement. Il y en aura toujours tant que les jeunes seront toujours dans cette identité. Mais après, on se rend compte aussi sur le terrain, même depuis plusieurs années, des fois, c'est le mauvais héritage. Hein. Des fois, c'est historiquement des villes qui sont en embrouille de génération en génération. Et on ne se rend pas compte à quel point ça impacte les plus jeunes. Parce que moi, en ce moment, je travaille sur Corbeil-Essonne. Et les classes de CM2 te parlent déjà des villes, des embrouilles entre mon conseil, Tarteret, etc. Donc je me dis comment des CM2 qui ont à peine 9-10 ans sont déjà limite préparés mentalement à se dire que quand ils vont arriver au collège, ils vont peut-être être confrontés par cette problématique et vont devoir, malgré eux, défendre leur territoire. Donc je pense que cette problématique, c'est un problème national. On a beaucoup de jeunes aussi qui banalisent la violence. Il faut qu'on se dise les choses. C'est qu'aujourd'hui, j'ai aussi des CM2 qui te disent, moi, si on m'embête demain, je lui mets un coup de couteau normal, quoi. Mmh. Et quand on fait prendre conscience que mettre un coup de couteau, c'est quand même mettre en danger la vie de quelqu'un et mettre aussi ta vie en danger. Je sais pas, on a l'impression qu'il y a un décalage entre les paroles et les actes. Ils se rendent pas compte de certains mots, certaines phrases qu'ils emploient. Après, parce que aussi, ils le voient aussi sur les réseaux, parce qu'on se rend compte aussi que des jeunes qui ont les réseaux sociaux trop tôt, c'est un danger aussi pour plus tard. Après, moi, c'est ma petite expérience, ma petite expertise de ce que je peux voir, mais je me dis comment des CM2 qui ont à peine 9-10 ans, ils ont Snap, Insta, TikTok. C'est grave quand même. Là, on rentre dans une situation où je suis pas là pour reprocher des choses aux parents, mais il faut quand même aussi se rendre compte que donner les réseaux sociaux trop tôt à un enfant, c'est de l'exposer à la vie adulte aussi trop tôt. Voilà.
Et du coup, je pense que c'est intéressant de mettre le pied dans ce sujet sur l'éducation au réseau. Parce que du coup, est-ce que le problème, c'est d'aller sur les réseaux ou c'est qu'il n'y a pas du tout d'éducation? C'est comme on n'a jamais envoyé un enfant dans l'eau sans lui apprendre à nager.
Là, bien sûr.
D'abord, on t'apprend à nager, après, on t'enlève la bouée. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Selon vous, votre diagnostic personnel ou professionnel, qu'est-ce qui fait qu'on est dans une telle situation de violence aujourd'hui, en tout cas qu'on en entend autant parler?
D'accord, je vais rejoindre ce que dit Adama. Donc, je pense que ce n'est pas nouveau comme phénomène. D'ailleurs, c'est très, très ancien, les phénomènes de bagarre entre bandes. Mmh. C'est juste que voilà, il y a les réseaux sociaux qui sont apparus depuis pas très longtemps. Donc du coup, ce qui fait que les jeunes se filment, il y a des vidéos, on voit des choses qu'avant peut-être qu'on ne voyait pas. Donc ça a changé pas mal de choses. Et effectivement aussi, je rejoins ce que disait Adama, c'est que les rixes, moi de ce que je vois sur le terrain, c'est que ça arrive de plus en plus tôt. Dès l'école primaire, effectivement, où il y a ce sentiment d'appartenance à un territoire, à une école, à une bande. Et ce qui fait qu'il n'y a pas forcément de liens qui sont faits entre les jeunes des différents quartiers dès le début. Et ce qui fait qu'ils sont dans une espèce de confrontation. Ils se disent que ici c'est chez nous, donc personne d'autre doit venir ici. Ce club de foot, ça appartient, c'est dans mon quartier, donc c'est que les gens de mon quartier qui le fréquentent. Donc c'est ce que je constate depuis que je suis éducateur.
Merci pour ce retour, Brandon. Les autres ?
Après, pour revenir à ce que tu as dit à propos de l'aspect qu'il y a entre les rixes et les réseaux, que maintenant c'est médiatisé, c'est filmé, c'est plus facile pour nous de voir ce qui se passe. De ce que je sais, de ce qu'on m'a dit quand je parle avec des plus anciens que moi, les rixes, ça existe depuis la nuit des temps. Il y a 40 ans, il y avait déjà des rixes, si je ne me trompe pas. Certes, ce n'était pas aussi médiatisé, mais le fléau, était aussi là. Et je pense que les réseaux sociaux n'ont fait que accélérer le processus, parce que de voir des petits de 12-13 ans impliqués dans les rixes, tu ne voyais pas ça dans les années 90. Et maintenant, la différence qui est entre maintenant et avant, c'est que maintenant, limite, les grands, ils incitent aux petits d'aller se battre dans la cité à côté. Ce qu'on ne pouvait pas voir avant, excuse-moi.
Non, c'est moi qui m'excuse.
Merci, Amine.
Moi, je dirais qu'on est vieux. On est devenu vieux. Parce que la réalité...
Pas tous à 18 ans quand même, Amine.
Ouais, mais en fait, parce que ce qui est paradoxal, c'est que nous, on va dire qu'on pointe du doigt ce phénomène, mais que les jeunes, en fait, nagent dedans, comme des poissons dans l'eau. Et pourquoi je disais en introduction qu'on était vieux, c'est que quand je fais une introspection, je réfléchis, je me dis qu'avant,
c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que là, ce qui se passe aujourd'hui, moi, dans mon secteur, il se passait la même chose. Et même jeune, c'est-à-dire que moi, je me rappelle des collégiens, surtout nous, entre Tremblay et Villepinte, il y avait une route qui séparait les deux villes.
Bah ouais.
Et je voyais les collégiens qui se battaient dans le bus. Donc, en fait, je disais ça pour dire que les phénomènes d'aujourd'hui ne sont pas des phénomènes nouveaux. Maintenant, ce qui est différent par rapport à notre époque, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux et les chaînes info mettent un effet loupe sur ce phénomène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, moi j'étais dans le 93, et ben nous on n'était pas au courant de ce qui se passait par exemple dans le 91, dans le 95 ou dans le 78 ou à Bordeaux. Alors qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a tout de suite l'information. Et donc, de ce fait, on a cette impression que les choses se multiplient, mais pour moi, comme le disait Amine précédemment, c'est quelque chose qui... c'est une forme d'héritage, donc c'est des choses qui existaient déjà. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que les vieux qui sont en train de pointer ce phénomène et de se plaindre de ce phénomène.
Exactement.
À juste titre, bien entendu, mais c'est l'impression que j'en ai.
Ouais, la Sanam, Mila...
Si je peux dire juste un mot
pour
compléter ce que Barberich nous dit. C'est vrai qu'il y a toujours eu des rixes, il y a toujours eu des bagarres, mais aussi aujourd'hui, la différence, c'est qu'il y a des armes. Les petits, aujourd'hui, ils ont des couteaux. À l'époque, moi, je reprends toujours de mes expériences personnelles, c'est que nous, on s'embrouillait, mais nous, c'était coup de poing. Tu vois, c'était rare que quelqu'un sortait un couteau. Et quand il y a quelqu'un qui plantait une personne, limite toute la ville est au courant, un tel a mis un coup de couteau. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils ont le couteau facile. Il y a les réseaux, mais il y a aussi les armes. Ils sont rentrés dans un concept que pour se protéger, il faut que j'ai mon couteau. Donc aujourd'hui, on a l'impression que voilà, la plupart des jeunes qui décèdent, c'est souvent un coup de couteau. Mmh. C'est quand t'entends qu'il y a un jeune qui est mort, tu sais que derrière, il y a eu un couteau. Donc il y a ça aussi qui est rentré dans la nouvelle génération, c'est qu'ils ont le couteau facile.
Ouais, merci pour ce constat, Lassana, Milay,
Bouba. Pour revenir à ce qui disait, je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus, c'est que ça a toujours existé. Maintenant, aujourd'hui, ça a pris une nouvelle forme. Les réseaux, ils sont rentrés en jeu. À l'époque, enfin, on n'est pas tous jeunes. Au vieux. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était le coup de poing. Et puis, ça s'arrêtait au moment où la bagarre était finie. Tu rentres chez toi et le lendemain, à la limite...
on passe à autre chose.
C'est passé. Aujourd'hui, quand tu rentres chez toi après la bagarre, il y a les vidéos qui circulent. Il y a un tel qui n'était pas là, mais qui est rentré dans l'embrouille. Et puis, ça s'alimente comme ça. Aujourd'hui, il y a les grands qui les ont. Et comme il dit, on est un peu dépassés. Sauf que c'est leur génération à eux. Eux savent comment ça fonctionne et pas toi. Et eux, ils alimentent ce truc-là. Et sur les réseaux, on a tout maintenant. Comme il dit, avant, c'est les coups de poing. Aujourd'hui, c'est les réseaux. Tu as les paroles. Et maintenant, tu as les armes. Qui a quoi? Comment je fais pour l'avoir? Et puis demain, on repart. Donc, je pense qu'il a raison. C'est que c'est nouveau pour nous, mais ça a toujours été là. Et maintenant, c'est une nouvelle forme qu'il faut maintenant gérer.
Toi, Lassana, t'es sur Bordeaux maintenant.
Ouais.
Est-ce que tu constates la même chose dans les quartiers bordelais que ce qu'on constate, nous, à Paris? Parce que souvent, on a l'impression que ce qu'il y a autour de nous, dans notre contexte environnemental proche, c'est une réalité nationale. Est-ce que toi, tu fais le même constat en étant sur Bordeaux, que la jeunesse a les mêmes difficultés ou...
C'est exactement la même chose. Après, moi, je suis à Bordeaux et la vie a fait que je sois proche d'un quartier aussi qui est similaire au nôtre aussi. Moi, j'ai grandi à Montreuil à côté. Mmh. Et aujourd'hui, on voit la même chose partout. C'est qu'ils sont de plus en plus jeunes, de plus en plus agressifs et puis sans limite, quoi.
Mmh.
Aujourd'hui, un jeune, à l'époque, moi, je me revoyais encore à Montreuil en bas du quartier. J'étais éduqué par un grand. Mes parents pouvaient me laisser dehors, mais le grand, quand il disait A, c'était A. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, en étant même éducateur, c'est difficile de dire à un jeune, ne fais pas ça. Le jeune va dire, t'es qui toi pour me dire ça? Et au final, c'est pareil, ça s'alimente. Et puis, je pense que c'est un problème national. C'est pas, ça
et pas. Merci pour ça, parce qu'en fait, les réseaux, ils ont du bon et du mauvais. Mais pendant très longtemps, on essayait d'enfermer ces problèmes à Paris et la région parisienne, les départements. 93 notamment, Seine-Saint-Denis. Et en fait, là, on se rend compte que partout en France, on découvre des petites campagnes, quoi, avec les faits divers. Bouba, tu t'es pas exprimé sur, selon toi, est-ce que d'où vient ce phénomène? Qu'est-ce que toi t'en dis?
Moi, je crois qu'il y a une hype autour de la médiatisation de la violence des jeunes. Parce qu'en vérité, les médias, en fait, ils se nourrissent tous. Par rapport à la même source, c'est l'AFP. Et du coup, à un moment donné, lorsque tu te nourris dans cette même source, on voit bien qu'ils parlent tous de la même chose. Par exemple, hier, je regardais BFM, après j'ai regardé CNews. Je vois qu'ils ils se refilent les sujets parce qu'en fait, ils se nourrissent tous au niveau de la même source. En fait, voilà, moi, je pense qu'il y a une hype. En fait, il y a toujours eu de la violence. Et moi, je crois même que la violence des années 80-90, c'est juste qu'elle n'était pas médiatisée. Mais il y a eu des bagarres et des confrontations. Il y en avait tellement avant. C'était dans le secteur Grigny-Vricorbeil, c'était tous les jours. Mais ce n'était pas médiatisé.
On va remonter un peu, on va faire un peu d'histoire, parce qu'on dit que ça a toujours été, on remonte nous à 10, 20, 30 ans. Selon vous, la capitale Paris est touchée par le phénomène d'Erix depuis combien d'années? Allez, petit quiz.
Moi, je crois après la guerre, je crois. Hein.
En termes d'années?
45 et quelques.
45 ans?
Est-ce que l'Erix médiéval, il compte?
Tu donnes...
Avec les épées.
Tu donnes ton chiffre.
Les guerres de territoire, ça existe depuis des années. Pour moi, depuis le Moyen-Âge, ça existe, ça.
Ok.
Ouais, depuis toujours, je pense.
Après on va affiner un peu sur vraiment les RICS, ce qu'on nous montre en ce moment. Là, comme tu disais, il y a une hype. Genre, les jeunes des quartiers rivaux s'affrontent. Ces RICS-là, à Paris. Restons sur la capitale. Selon vous, vous diriez combien d'années? Donc là, j'ai eu 45.
Bah, après Paris, le problème, c'est que ça reste la capitale. Même s'il y a des RICS un peu partout, on ne va pas trop en parler. Parce que ça reste la capitale. Ça reste où les touristes doivent venir.
T'estimerais à combien d'années?
Moi, je dirais franchement, ouais, 30-40 piges.
Ok.
30-40 ans. Parce que quand tu prends des embrouilles, on va dire, historiques, ça fait très longtemps. Comme tu prends un exemple, moi, que j'entends entre Riquet et Cambrai, ça date de combien de temps? Tu vois, ça date de beaucoup trop longtemps, beaucoup trop de morts. Mais quand tu allumes la télé, tu ne te dis pas qu'à Paris, tu as l'impression qu'il n'y a que eu l'affaire Youri, c'était le jeune qui s'est fait lyncher, ou quelques affaires, une fois de temps en temps.
Bah, vous n'avez pas encore la bonne réponse, les garçons.
La réalité, elle est là.
En termes de chiffres. Mylan.
Milaï.
Milaï, pardon.
J'ai pas de chiffres, moi j'aurais dit depuis toujours.
Non, donne.
Si c'est pas 30-40, monte.
30-40, 50-60. Peut-être moins, vas-y. Une petite estimation comme ça.
100, peut-être.
100,
ouais,
100. Ok. Bouba.
Ouais, moi je dis après la guerre. C'est après la guerre et les Apaches, tout ça, là, les bandes là, qui sont créées.
Les Apaches, on s'y approche. Barberiche.
Depuis toujours.
Donnez-moi des années, les gars. Ouais, donnez-moi. 100, ouais. C'est 120 à peu près. Ah ouais. 120 ans. Depuis les années 1900, dans la capitale à Paris, on parle justement des RICS, ce phénomène, et ça a commencé effectivement avec les Apaches. Vous savez qui étaient les Apaches, Bouba?
Bah, c'était les premières bandes qui sont créées. De voyous qui sont créées à l'époque. Là.
Ouais. Et ben, du coup,
est-ce qu'à l'époque, il y avait des immigrés?
Les Apaches, ils étaient.
C'est une question que je pose parce que
quand on les entend. Immigrés d'ailleurs.
Non, c'est vrai.
Il y avait des immigrés, mais d'ailleurs, c'était pas forcément ceux qui étaient mis en cause. Bon, il y avait déjà une communauté maghrébine qui était pointée du doigt à cette période-là. Mais effectivement, le paysage africain noir, c'était pas nous qui étions le plus représentés dans les RICS quand on parlait des Apaches à l'époque. Mais il y a eu les confrontations aussi bien après, qui ont des confrontations de minorités, on va dire, qui ont été maltraitées sur le territoire parisien. Voilà. Donc du coup, oui, on parle de plus d'un siècle en fait. Donc les choses, elles n'ont pas tant changé que ça, mis à part ce que vous disiez tout à l'heure sur les réseaux. La question qui suit, c'est: est-ce que vous pensez qu'il y a un contexte qui favorise ça? La violence est-elle une histoire de classe, de milieu ou de contexte social?
Moi, j'ai la violence, de toute façon, elle a tellement été banalisée, même dès le plus jeune âge, hein, quand tu regardais, je sais pas, toutes les émissions quand tu étais petit, les Power Rangers, tous ces trucs-là, c'est des gens qui se battaient pour avoir la paix. Et comment aujourd'hui on va reprocher aux jeunes de se battre pour avoir la paix? Et toutes les émissions, ou même toutes les films que tu regardais, même s'il n'y avait pas des coups de couteau, etc., il y avait de la bagarre. Quand on regardait les Bruce Lee plus jeunes, il y avait de la bagarre. Donc, je me rappelle Karate Kid, ou je ne sais même plus. Tu vois, même on te montre que même les petits, ils étaient prêts. C'est-à-dire, tu te dis, moi aussi, il faut que je sois dedans. Il faut que je sois prêt. Donc, tu vois, tout ça, pour moi, ça nous a déjà mis que c'est normal de se battre, déjà, dès le plus jeune âge. Tu vas regarder Walker, Texas Ranger, je sors des références, hein, parce que ça me revient à l'esprit. Mais les dimanches, après, je me battais avec mes frères.
Bah ouais.
Et nous, on était beaucoup à la maison. Donc, moi, j'étais Walker, l'autre, il est Trivette, etc. Donc, on se battait pour rigoler. Mais en fait, tu te prépares déjà, limite, mentalement, à banaliser la violence. Moi, je dis qu'on a banalisé la violence, pour moi.
Bah, de toute façon, là, dans ce que tu dis en rigolant, il y a vraiment quelque chose à creuser. C'est de quoi se nourrissent nos jeunes? De quoi se nourrit notre société? C'est-à-dire en termes de musique, de films. Est-ce que pour vous, ça a un impact, justement? Et je me tourne vers toi, Amine, parce que du coup, tu as tourné ton court-métrage. Bah, du coup, Adama aussi. Hein. Mais là, Amine, 18 ans, tu as eu la chance de tourner ton premier court-métrage, Frères de sang. De quoi se nourrissent nos jeunes? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils regardent à la télé? Qu'est-ce qu'ils écoutent? À quoi ils jouent? Qu'est-ce qui fait que... on dit que dans une situation de crise, ton cerveau, il n'a même pas 10 secondes pour aller chercher une solution. C'est-à-dire, est-ce que si tu regardes des films violents, tu joues à des jeux violents, tu écoutes de la musique violente, ben, dans une situation de crise, est-ce que c'est pas un acte violent la première réaction que tu as?
Tu vas te nourrir de ce que tu manges. Tu vas faire avec ce que tu vois. Pour moi, ça joue. Comme par exemple, l'exemple, il est peut-être bizarre, mais c'est pour ça qu'il y a des jeux qui sont décossés au moins 18 ans, comme des Call of Duty, des GTA. Moi, quand j'étais petit, j'avais pas le droit de jouer à GTA ou à Call of Duty, parce que ma mère, elle me disait que dans la rue, je vais avoir des comportements comme ça, je vais vouloir me battre, je vais croire que les armes, c'est tout le monde peut en avoir, je vais vouloir en avoir une. Et ouais, du coup, je pense que ça joue énormément. On voit ça partout dans les clips de rap, dans les films, parce que c'est ce qui marche. Tout le monde aime ça, tout le monde aime voir ça, tout le monde aime parler de violence, tout le monde aime, même ceux qui n'ont rien à voir avec la violence, ils sont attirés par ça, ils fantasment sur la violence, sur ce qui se passe dans les quartiers, en dehors des quartiers. Et ouais, vraiment, je pense que c'est par rapport à ce qu'on voit et aussi au quotidien, qui est un quotidien qui dure depuis très très longtemps. Et les médias, les films se nourrissent de ce qui se passe au quotidien et de ce qui marche le plus.
Tous ensemble, est-ce qu'on peut identifier certaines situations de violence dans lesquelles on baigne des violences ordinaires, en fait, des violences du quotidien? Parce qu'on parle des violences, les rixes, le harcèlement, les bagarres, etc. Mais quelle autre violence dans laquelle on baigne de plus en plus?
Ma femme, quand elle est au volant, elle crie. Elle insulte.
J'aimerais bien rencontrer ta femme, dis donc.
Violence. Violence verbale, hein.
Mais oui, non, mais. Non, mais oui.
C'est une boutade, mais ça commence par là, en fait. C'est-à-dire qu'on est tellement dans une société dans laquelle on est à cran, dans laquelle nos émotions sont mises à rude épreuve, que, en réalité, on est souvent violent. Même dans des situations dites anodines. Là, je vous parlais de. D'être au volant, et bah oui, dès qu'il y a quelqu'un qui va passer devant nous ou qui va être un peu trop lent devant nous, et bah on va avoir des excès de violence. Comme tu le disais, Adama, c'est verbal, mais ça peut vite finir au physique.
Surtout quand tu es dans le périph', hein. C'est chaud. Hein. Périph' parisien, waouh, quoi. Tu doubles, quelqu'un double ou il se rabat bizarrement, il te. On est prêt, je sais pas, on est trop sous tension déjà. Trop sous tension. Et ouais, verbalement, comme il le dit
Barbarie. Les violences verbales.
Hein. Violences verbales, ça commence par là. Déjà, de banaliser les insultes. Tu vois, les gens, ils ont l'insulte facile aujourd'hui. Tu vois, tu peux te prendre une insulte rapide et après, de là, toi, t'acceptes pas, tu peux démarrer la personne. Ça va trop vite. Donc, je pense que, ouais.
Donc, violence verbale, quoi d'autre?
Après, il y a une violence qu'on, malheureusement, on n'en parle pas assez, que j'ai abordée dans mon court-métrage, les violences qu'il y a dans les foyers familiaux.
Oui.
Entre frères et sœurs, entre mère et père, entre père et fils.
Les violences intrafamiliales.
Intrafamiliales, c'est ça. Mmh. Et ça se trouve que dans nos proches, il y a des personnes qui subissent ce genre de violence et qui n'en parlent pas, et qui dehors auront un comportement très très violent. Et on va se dire, ouais, lui c'est un fou, alors que c'est ce qu'il a grandi dans ça, il a baigné dans cette violence. Et comme chez nous, on a grandi, on ne parle pas, on ne se livre pas aux gens. Du coup, on va voir un mec violent sans savoir qu'est-ce qu'il a dans la tête ou qu'est-ce qui se passe chez lui.
Exactement. Et merci Amine pour ça. Justement, les violences intrafamiliales, c'est un peu là où je voulais vous mener. C'est-à-dire qu'on avait eu un débat, je ne sais pas si tu te souviens, Bouba, à Massy, d'un jeune qui... est-ce que tu veux bien nous raconter cette anecdote? Le jeune qui dit à un papa, vous nous reprochez d'être violent dehors, mais... Est-ce que vous êtes posé la question du pourquoi? Est-ce que tu te souviens de cette scène?
C'était Moïse, tu vois. Petit Moïse.
Et... Oh, faut pas nommer les gens comme ça.
Il a un problème, il va me voir. C'est bon, quoi qu'il en soit. Non, mais on va discuter tranquille, comme des adultes africains. Mais bon, quoi qu'il en soit. On avait fait un débat avec des papas et notamment des jeunes. Et du coup, à un moment donné, le petit Moïse exprimait le fait que. Le problème, c'est que lorsque on discute avec vous et qu'on vous dit nos vérités, Bah, direct, les parents, certains, vous ils ont frappez. Ce réflexe de vouloir les frapper.
Merci Adama. Lui, il n'a pas voulu le dire. Vous nous frappez.
Vous nous frappez, tu vois. Il a dit, vous nous frappez, vous êtes là. Et en fait, il expliquait que ce n'était pas vraiment la... Bah, que c'était pas la solution, quoi. Tu vois, c'était pas ça. C'était
et
pas...
que du coup, quand il arrive dehors, bah, d'après vous, le premier mec, il n'a pas pu répondre à son père ou à sa mère. C'est-à-dire, il s'est fait éclater à la maison. Il ne peut pas répondre à son parent. Il ne va pas lui rendre le coup. Mmh. Il ne va même pas lui rendre la parole. Mais par contre, le premier dehors... qui va bouger, qu'est-ce qui va se passer?
Il va lui rentrer dedans.
Ouais, il va et le frapper ouais. Parce que pour lui, moi, le respect, quoi.
Les gars
le
les plus violents que j'ai connus, chez eux, ça se passait mal. Hein. Mmh. Franchement, c'est des gars qui ont des parcours...
Ils reproduisent ce qu'ils voient à la maison.
C'est ça. C'est ça. Et au-delà du respect, c'est toute cette colère en fait, que tu as en toi. Quand tes parents te frappent, quel que soit ton âge, hein, parce que des fois, tu es adulte. Ça veut dire la violence de ce que tu reçois, bah, le premier dehors qui va t'insulter, le premier qui va te marcher sur le pied... Bah, s'il te rencontre 10 minutes après, ça risque de tourner mal. Donc, là, on parle des violences des mineurs qui sont de plus en plus montrées du doigt, des violences avec des morts derrière. On parle parentalité aussi. J'aimerais que vous puissiez réfléchir 2 minutes à voix haute sur l'impact sur nos parents. Qu'est-ce que vous constatez avant même d'être dans... c'est de leur faute, c'est pas de leur faute, etc. Quel est l'impact pour ses parents? Et c'était quoi la promesse, en fait? C'était quoi la promesse de la République pour ces familles qui arrivent de l'immigration? Mais on a fait venir des familles ici pour reconstruire la France. Il fut un temps. Et il y a eu une promesse derrière celle-là. Et est-ce qu'à un moment donné, aujourd'hui, il n'y a pas une rupture entre la promesse qui a été faite à ces familles avec une éducation différente, occidentale, et ce qui se passe sur le terrain? Qu'est-ce que vous constatez, vous?
Déjà, moi, je rebondis un peu sur ce que tu as dit, parce que la violence, elle n'a pas de milieu social. Elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'origine, elle n'a pas de religion. C'est-à-dire que la violence, on peut la trouver partout. Maintenant, on va dire qu'il y a des facteurs aggravants, si on peut dire ça comme ça. C'est que, bien entendu, si tu es dans un contexte difficile, où il y a misère, précarité, violence, eh ben, tu es plus sujet à toi reproduire la violence par la suite. Donc ça, c'est très important. Et pour répondre à ta question concernant les parents, ils sont dépassés. Il y en a qui sont dépassés, il y en a qui sont à l'ouest, il y en a qui sont totalement démissionnaires. Après, en fait, je pense qu'il y a différents types de parents.
Et les parents engagés, les parents qui sont là, mais qui du coup n'ont pas d'emprise sur ce qui se passe. Ça veut dire qu'on en parlait un peu hors antenne, il y a des parents qui sont concernés, qui suivent l'éducation de leurs enfants, qui sont dans la communication et pour autant qui ne voient pas venir. Qu'est-ce qu'on...
Je pense que dans certains cas, tout ce qui se passe dehors prend tellement de place dans la vie du jeune qu'à la maison, la mère, les parents... peuvent pas faire grand-chose par rapport à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, par rapport à ce qui se passe dehors, dans la rue, au quartier ou quoi.
Après, tout ça, c'est une question de choix. On ne peut pas reprocher à un parent les choix que fait son fils par rapport à ce qu'il voit dehors et sur les réseaux. Mais c'est aussi de la faute au bout d'un certain âge. Tu sais ce que tu fais. Nous, les humains, on a le libre arbitre. Ça veut dire qu'on est censé savoir dépasser les 17-18 ans, ce qui est bien et ce qui est mal, même si tu as baigné dans la violence, dans le mal, dans tout ce que tu veux. Tu sais, tu vas voir quelqu'un, certes, il vient pas à ton quartier, tu as des problèmes avec lui, mais tu vas pas aller lui rentrer dedans pour rien. On n'a pas besoin de t'apprendre qu'il ne faut pas taper sur quelqu'un pour que tu saches que c'est pas bien. Déjà, c'est interdit par la loi. Ça veut dire, je pense que, certes, l'éducation, ça joue, mais pas à 100%.
Ouais, et merci pour ça. Lassana, tu as écrit un livre, justement, qui s'adresse aux tout petits. Est-ce que tu nous en parles et tu nous expliques pourquoi?
Je peux en parler brièvement, parce que c'est... Là, c'est bon. C'est ça part. J'ai un enfant de 5 ans, j'ai un petit garçon, et ça part de là en fait. Je m'occupe généralement du plus âgé, d'adulte, et je me dis en fait, j'ai mon petit garçon qui est très jeune, et je vois que ça évolue très vite en fait. Et on a tous aujourd'hui une profession et tout ça, on a de moins en moins de temps avec nos enfants. Qu'est-ce que je peux lui apporter pour garder ce lien avec mon gosse que je vois très peu au final? Et ça part de là, du coup, pour parler un peu de mon expérience, c'est que le déclic, ça a été une action qui s'est passée à l'école avec mon fils. C'est que moi, je suis quelqu'un de très, très proche avec mon fils, dans la com, malgré ses 5 ans. Je le rends autonome, on fait beaucoup de choses et tout. Un jour, je le récupère à l'école, tout souriant, tout ça, on arrive à la maison, et je lui dis de faire quelque chose. Standard. Il me dit non, la maîtresse ne veut pas que... Je dois pas le faire comme ça, en fait. Sauf que moi, à la maison, ce sont mes règles. Et je vois à partir de là qu'en fait, je suis pas seul à éduquer mon enfant. Je peux pas être responsable de ce qu'il fait à l'école, ce qu'on lui dit, parce qu'il passe 90% de son temps avec sa maîtresse. Je peux pas aller contre ça, c'est pas possible. Parce que quoi qu'il arrive, moi, j'ai que le soir ou le matin quand je le dépose, et elle est censée lui apprendre quelque chose. Donc, je me suis dit, ce livre, il va permettre aussi aux parents de se poser, ceux qui ne prennent pas le temps, mais de se poser, et il va leur permettre de découvrir leur enfant, ce qu'il a dans la tête, ce qu'il fait à l'école, ce qu'il veut faire aussi. On en parlait en off avec le jeune qui est acteur aujourd'hui. C'est des milieux qu'on ne connaît pas. Nous, dans les quartiers, pas plus que ça. Et peut-être que ça va ouvrir des portes aussi aux jeunes qui veulent, par exemple, quand ils vont voir une pub, « Je veux être un acteur, et pas footballeur, ou bien boxeur, ou bien rappeur. » Tu vois. Donc, ce livre, il permet aussi aux parents de se dire « Oui, même si je suis pressé, il faut que je prenne au moins 15-20 minutes par jour avec mon enfant pour savoir ce qu'il a dans la tête. » Donc, voilà un peu comment c'est parti pour...
Il y a des messages très valorisants, en fait, dans ton livre. Parce que tout à l'heure, tu disais le bien, le mal, le discernement, l'amour de soi, exact. Peut-être aussi.
Oui.
Adama, dans tes épisodes autour d'Eryx, ça part d'un constat déjà. Qu'est-ce qui t'a amené à tourner ces épisodes, et qu'est-ce que tu as constaté par rapport à l'éducation, les parents, qu'est-ce qu'ils t'en disent?
En fait, moi, le constat, c'est que à chaque fois que j'ai eu un message sur mes réseaux, une famille qui m'a contacté, lorsque j'ai échangé avec cette famille, je me suis rendu compte que ce n'était pas des parents démissionnaires. Ce n'est pas des parents qui s'en foutaient de leur enfant. Mais malheureusement, c'est tombé sur eux. Et le constat, c'est qu'eux me disent « Ouais, j'ai bien éduqué mon enfant et je n'aurais jamais imaginé que mon fils allait perdre la vie. » Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand on allume la télé, on entend que oui, les parents des personnes qui sont mortes sont peut-être des parents démissionnaires. Les parents des personnes qui agressent sont peut-être des parents démissionnaires. Il a dit un constat qui est amer et qui est vrai, c'est que les parents ils peuvent éduquer leur enfant, très bien éduquer leur enfant. L'enfant il peut sortir dehors et se transformer, avoir une autre éducation. Moi, quand je pose la question souvent aux jeunes, et souvent je me dis que les jeunes, ils ont deux visages. Ils ont la personnalité qu'ils ont à la maison avec leurs parents et la personnalité qu'ils ont dehors. Et quand je poursuis, je leur pose la question, c'est qui le vrai toi alors? Le vrai toi, c'est celui qui est à la maison ou celui qui est dehors? On me dit oui, c'est celui qui est à la maison, parce que dehors, je suis obligé de jouer un rôle. Donc elle est là, la réalité. Et on joue tellement notre rôle à fond qu'on finit par être meurtrier, on finit par devenir dealer, on finit par agresser des gens comme si c'était des sans-cœur. Parce que moi, j'ai pu rencontrer des jeunes aussi en détention qui sont là pour des histoires de meurtre, tentatives de meurtre, aussi des histoires de stup, etc. Et tu te rends compte, quand tu parles avec eux, au début, ils ont cette représentation où ils font les bonhommes. Genre, moi, vas-y, on est au placard, c'est comme ci, c'est comme ça. Moi, j'ai fait du placard, je sais ce que c'est. Et quand, au bout de quelques mois après, j'échange avec ce jeune, tu te rends compte, en fait, c'est un jeune qui est en pleine souffrance, qui a joué un rôle jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, au fond, il assume plus ce rôle-là. Mais il a plus le choix. Il est tellement... dedans qu'aujourd'hui il n'a plus le choix. Donc moi je pense qu'il faut vraiment vraiment parler aux jeunes et leur donner de l'espoir pour l'avenir, parce que même il n'y a pas longtemps j'ai tweeté, j'ai dit la plupart des quand je fais des sensibilisations, vous voulez faire quoi plus tard? J'ai toujours rappeur, footballeur, influenceur. On est bon qu'à ça, on a l'impression. Et même quand je mène des projets dans des villes où les jeunes ils veulent faire un court métrage, au début, ils disent « Ouais, mais non, on est nul, c'est pas possible, on va pas pouvoir le faire. » Donc, valorisation, valoriser les jeunes. Et c'est vrai que des fois, malheureusement, il y a aussi des jeunes où, à la maison, ça se passe mal, ça se passe très mal. Et dehors, leur seul exutoire, ça va être la violence. Ils vont être en première ligne et autres, mais c'est pas quelqu'un qui tape et qui est en première ligne, qui fait la guerre, c'est pas forcément quelqu'un qui est heureux. Donc il faut se poser les bonnes questions.
Juste avant de te poser une question à toi, Brandon, pour que tu te prépares psychologiquement, t'es le prochain. T'as tourné Rix.
Oui.
Est-ce que tu t'es déjà posé la question de tourner quelque chose avec les travers de la cellule? C'est-à-dire ce qui se passe quand tu es tout seul dans ta cellule. Parce que souvent, les jeunes, ils fantasment. Oui, et on ne leur raconte pas assez la fouille au corps. On ne raconte pas ce que subissent tes parents, comment ils sont maltraités.
Bien sûr.
Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête?
J'en ai un peu parlé dans Rix saison 2. J'ai fait un épisode sur la prison. J'en ai parlé de la prison, mais il est vrai que je suis pas parti dans la profondeur de la première humiliation carcérale quand t'arrives. C'est t'es devant 3 ou 4 surveillants, on te fait la fouille à poil et ils te fouillent à poil quand ils veulent.
Ouais.
C'est pas toi qui décides, tu vas pas dire oui, tu vas dire non, et ils font ce qu'ils veulent de toi. Donc la réalité, elle est là. C'est qu'on a fait un épisode sur la prison pour déconstruire ce qu'on peut voir de la prison à travers les réseaux. Et ce que je dis aux jeunes, c'est que les vidéos que vous pouvez voir sur les réseaux, ça dure 1 minute 30 secondes. Ça ne reflète pas l'univers carcéral. L'univers carcéral, c'est que ton co-détenu peut te tuer dans la nuit et personne va rien faire parce que c'est toi et lui. Il y a eu plein de cas similaires quand j'étais en prison. Des mecs qui ont pété des câbles dans la nuit, qui ont étranglé leurs co-détenus et qui les ont laissés pour morts. D'autres qui chauffent de l'huile, qui mettent sur le visage de leurs co-détenus. Ça, c'est des réalités, mais les jeunes, ils ne se rendent pas compte que la prison, c'est violent. Mais
parce qu'il n'y a peut-être pas assez de personnes qui
racontent. Parce que aussi, le problème, c'est que ceux qui sortent de prison, ils bombent le torse.
Voilà.
Ils font les mecs, ouais, j'ai fait ma peine sur une jambe. Mm. Ils ne disent pas que même ceux qui font des vidéos en prison, ils rigolent. Mais les gars, moi, j'ai envie de filmer devant les parloirs et voir vos mères qui sont là avec des sacs de linge. C'est ça, la réalité. Mm. Vous faites les bois à l'intérieur, mais on sait très bien comment c'est. Pour ceux qui ont fait de la prison, c'est dur. Il n'y a pas à valoriser la prison. Moi, un jour, il y a un jeune qui m'a dit « Ouais, toi, ça se voit, t'as souffert en prison, on t'a fait la misère. » Moi, je lui dis « C'était très dur, la prison. Je ne suis pas là pour te raconter ce que j'ai fait en prison parce que je n'ai aucune valeur de dire « Ouais, j'ai fait ça, je veux... » Ça va servir à quoi? C'est ça, la réalité. Ça veut dire, il y en a, ils vont te parler de la prison. C'est comme si ils vont embellir la prison pour dire au petit frère « Ouais, c'est rien. » En fait, quand tu passes là-bas, t'es un bonhomme. Rien de bonhomme du tout. La prison, c'est pas un jeu. Quand t'es enfermé là-bas, tu te rends compte que t'es dans une cellule de 9 mètres carrés, que tes besoins, quand tu vas aller aux toilettes, tu vas aller aux toilettes dans la pièce où il y a ton co-détenu. Ça veut dire...
Il n'y
a pas d'intimité. Ça veut dire, demain, t'es pas bien, tu pleures. Ben, ton co-détenu peut voir, toi aussi tu vois. Et les gens se rendent pas compte que même psychologiquement, quand tu sors de prison pour te réadapter à la liberté, c'est compliqué. Ceux qui fument, qui pètent des câbles en prison, il y en a beaucoup qui finissent en HP quand ils sortent de prison, et même en prison. Mais ça, on n'en parle pas assez. On va toujours parler des mecs qui sortent, quand on en a parlé dans une émission avec Booba, les mecs qui sont costauds, ils sont balèzes, mais peut-être balèzes à l'extérieur, mais cassés à l'intérieur. Ça, c'est une réalité.
Merci pour ça, Dama. Je pense qu'on fera une émission spéciale.
Si vous voulez, moi, je peux en parler.
Parce que,
il faut ramener des taulards. Hein,
ouais, mais voilà, c'est ça.
Il faut qu'ils disent la vérité aussi.
Il faut qu'à un moment donné, les gens disent la vérité. Et je pense que même d'avoir...
Même pour les petits frères, c'est important.
Et même d'avoir des mamans.
Ben oui, tout le monde. Mais tu souffres.
Bien sûr.
Tu souffres. T'es en prison, tu souffres. Et les gens ne se rendent pas compte. Parce qu'il peut t'arriver des choses. Moi, j'ai perdu mon père en prison. C'est des situations que tu souhaites à personne. Et les gens, on a l'impression, quand ils rentrent en prison, ils ne se rendent pas compte que derrière, ils enferment leur famille. Tu enfermes ta famille dans ta galère. Donc, il faut leur dire. Il faut leur dire la vérité.
Et puis, il faut aussi, peut-être qu'on ait des parents qui viennent aussi face de ceux qui bombent le torse.
Mais comme bien sûr, quand tu vas devant une prison, il n'y a que des mamans, que des femmes. Il y a peu d'hommes. Faites le test. Ramenez des jeunes. Moi, je dis, ramenez des jeunes devant la prison. Les jeunes qui valorisent, ramenez-les juste devant la prison. Vous faites passer 2 tours de parloir. Vous allez voir, hein, que des mamans avec des sacs de linge, que des femmes qui vont voir leur mari ou des sœurs qui vont voir leur frère. Il y aura peu d'hommes.
Merci pour ça. Brandon, du coup, je me retourne vers toi parce que toi, tu es un acteur de terrain. Tu travailles au quotidien avec les jeunes. Vous avez des projets sur la lutte contre les RICS notamment. Quel est ton constat vis-à-vis de cette jeunesse? Est-ce que déjà, tu rejoins un petit peu ce que Adama disait sur le fait que il y a tout un fantasme derrière tomber, c'est pas si grave et c'est même plutôt cool pour le CV? Et est-ce que tu as un retour des familles ou pas?
D'accord, déjà je vais rejoindre ce que disait Adama, c'est que l'éducation des parents, donc de ce que je sais, c'est qu'il y a très peu de parents qui vont dire à leurs enfants aller taper un tel ou un tel personne ou aller faire telle ou telle chose. L'éducation que les parents transmettent à leurs enfants, elle est confrontée à une autre éducation, c'est celle de la rue. Donc, c'est-à-dire que leurs enfants, pour appartenir à une bande ou pour montrer qu'il est comme eux, il va peut-être reproduire certaines choses contre sa volonté, pour justement intégrer cette bande d'amis ou pour bien représenter entre guillemets son quartier. De ce que je sais aussi, c'est que Bah oui, dans le fond, ils sont tous gentils. Ils veulent faire des choses bien, mais voilà. La réalité fait qu'ils font des choses qui sont regrettables et que plein de jeunes, après leurs actes, regrettent. Mais la marche arrière, elle est cassée. Donc, une fois que tu es lancé, tu ne peux pas faire demi-tour. Donc, il faut continuer dans ton rôle. Il faut continuer à prouver que bah, tu es quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui dans le quartier, que tu es respecté, etc., etc.
Amine, est-ce que tu es d'accord avec ce que tu entends? Est-ce que tu as l'impression de reconnaître... parce que toi, c'est particulier, en plus, de là où tu viens, vous avez été impacté fortement par ces violences urbaines et les RICS. Est-ce que tu as l'impression que ça dresse un peu le profil de certains jeunes? Pas de retour en arrière possible. Une fois qu'on est lancé, une fois qu'on sort, bah, en même temps, il faut être un bonhomme. Est-ce que toi, tu l'as ressenti dans ton entourage ou pas du tout? Parce que tout à l'heure, tu parlais de choix.
Ouais. Bah, une fois que t'es dedans, si on part du principe où il a choisi d'être dedans, il peut toujours en sortir. Quand moi, je sais vraiment comment ça se passe. Déjà, moi, j'ai jamais été impliqué là-dedans. Je m'entends très bien avec les mecs d'à côté avec qui mon quartier est en guerre. Carrément, je les ai fait participer à mon court-métrage. Tout s'est très, très bien passé. On était tous ensemble sur le même lieu de tournage. Des deux côtés, il y avait des mecs impliqués. Et pourtant, ça s'était très, très bien passé. Ça a partagé des deux côtés. Je pense que tu es dedans, tu vas faire des erreurs, tu vas faire les mauvais choix. Si tu vas en sortir, certes, il y aura des représailles. Ça se trouve, tu vas recroiser quelqu'un avec qui tu avais déjà tapé, il va vouloir te retaper. Mais quand tu veux vraiment faire en sorte de plus être dedans, tu peux. Tu vas trouver un taf, tu vas te marier, tu déménages si vraiment tu sais que c'est dangereux pour toi. Si tu veux t'en sortir, tu peux t'en sortir. Tu vas discuter avec des éducateurs, avec tes grands, avec les grands de la cité avec qui tu as des problèmes. Tu vas voir, excuse-moi, je suis désolé. Ça, c'est des choses, on est humains, ils sont humains, on est tous humains. Ça veut dire que tu vas voir quelqu'un, tu vas lui parler sincèrement, tu vas lui dire, regarde, moi j'ai envie de sortir de ça, je suis vraiment désolé, et c'est bon, stop, laissez-moi tranquille avec ça. Et moi, je peux vous jurer que le mec, il va pas lui sortir un couteau et le planter.
Merci pour ça. Est-ce que tu penses que c'est valable aussi quand il y a eu un mort? Parce que souvent, les gens, ils disent que dès qu'il y a eu un mort, par contre, c'est plus pareil. Non. Ça veut dire que tu peux pas arriver... et dire « Ouais, j'ai tué ton frère, je suis désolé, je veux sortir de ça. »
Ça, c'est mort. Ça, c'est vraiment la mort. Quand on parle de mort, c'est vraiment le truc où le point de non-retour. Une fois que t'es arrivé à là, il faut pas que tu tombes devant les mêmes personnes. Même si tu souhaites te repentir, même si on va parler religieux, même si t'es quelqu'un de religieux et tu nous dis, enfin que tu vas dire que tu souhaites te repentir, une fois que t'en es arrivé à là, tu vas souffrir. À part si vraiment tu déménages, tu pars loin de tout ça, là, il n'y a personne qui va te suivre. Exemple, à Bordeaux, c'est loin de la région parisienne. Il n'y a personne qui va te suivre jusqu'à Bordeaux pour tuer, à part vraiment la famille proche ou quoi. Mm-hmm. Mais si tu pars sans le dire à personne, tu peux t'en sortir de ça.
Alors, Brandon, je te voyais hocher de la tête. Ensuite, je vais retourner la question à Adama par rapport à quand il y a un mort, est-ce que c'est réversible? Et ensuite, les garçons mettront les pieds dans la tasse. Brandon. Et Milay, si tu veux rebondir, vas-y, hein, n'hésite pas. Vas-y.
Oui, après, effectivement, il y a des situations où tu peux faire marche arrière. Comme tu l'as dit, lorsqu'il n'y a pas de mort ou qu'on n'est pas encore arrivé à un stade qui est très, très grave.
Ouais.
Mais ça peut aussi arriver où voilà, tu as handicapé une personne, tu lui as mis, je ne sais pas, un coup de couteau, ça lui a handicapé au niveau de la jambe et tout. Donc là, ça devient toujours aussi difficile de faire marche arrière, tu vois.
Même là, à ce moment-là, pour moi, je trouve que c'est quand même possible de réussir à s'en sortir de ça, tu vois. Certes, vas-y, il y aura un prix à payer. Une fois que tu auras payé ce prix, bah c'est bon, ils vont te laisser tranquille en fait.
Adama, et ensuite ouais. Milay, j'ai une question en fait pour toi. Est-ce que quand il y a la mort, il y a un point de non-retour et du coup là, pour le coup, tu sais de quoi on parle plus que personne?
En fait, ça dépend des personnes et ça dépend du pardon, l'acceptation. Est-ce qu'il ne faut pas brusquer les choses? Tu vois, c'est que... Aujourd'hui, on va nous vendre beaucoup la justice restaurative. On va nous dire les victimes et les auteurs, ils peuvent s'asseoir autour d'une table, discuter et régler. Mais avant ça, il faut un travail. Et peut-être que ça se trouve qu'il y a des personnes qui ne voudront jamais accepter. On ne peut pas leur en vouloir. Quelqu'un qui a été blessé dans sa chair ou qui a été handicapé, pour le plaisir des autres, n'est pas obligé d'accepter. Mais peut se dire, fais ta vie, on ne se calcule plus, on ne se croise pas. Donc la réalité, elle est là. Moi, je pense que c'est possible. C'est possible. Et même dans ce genre de situation, souvent, même quand il y a des décès, tu sais que les parents, ils n'appellent jamais à la représailles. Aux représailles, pardon. Ils n'appellent jamais aux représailles. Les parents, au contraire, ils disent, Non, laissez. Aujourd'hui, les représailles, des fois, elles sont faites par par le quartier, par des frères, par des amis, mais pas par des parents. Parce que les parents, en plus, c'est les premiers qui souffrent. Et les parents, ils disent, laissez notre enfant reposer en paix. Ne prenez pas cette cause-là pour continuer vos histoires.
Surtout que ça fait revenir personne.
Donc, ça fait revenir personne. Et la réalité, elle est là. Donc, c'est possible. C'est possible. Hein. De toute façon, avec le temps et même... avec l'acceptation des choses, tout est possible, mais ça prend du temps. Des fois, ça prend du temps. Et voilà, il faut pas prendre des morts pour des causes comme récemment les décès qu'il y a eu. On entend souvent les politiques qui tweetent, qui envoient des messages, etc. pour mettre de l'huile sur le feu. Ils ne respectent même pas le deuil des parents. Donc aujourd'hui, on en est là. On va prendre des morts, on va les jeter au plein milieu de la rue pour dire que voilà, c'est à cause de un tel. Ça... Non, respectez le deuil des personnes. Respectez ce que les personnes vous demandent. Moi, je comprends toujours pas que même dans des quartiers, quand les parents qui ont perdu leur enfant demandent aux potes, des amis, ne faites pas de représailles, je comprends même pas pourquoi derrière on en fait. Et c'est là qu'il faut se questionner, se poser les bonnes questions. Parce qu'on reste encore dans cette...
Micro,
On m'entend plus ?
Ouais, non, on t'entend plus.
Allô, allô, pourtant moi je m'entends.
On t'entend plus, on n'entend plus, vas-y.
Moi je l'entends, moi aussi.
Vas-y, moi je t'entends plus.
Donc la réalité, elle est là, c'est que comment on peut... Lorsque nos parents ne nous disent pas de représailles, on le fait. Mais on reste aussi derrière dans cette mentalité de quartier, cette mentalité où on se dit « Ouais, mais il y a un zéro, ou il y a un 1, ils ont tué un de nos potes, on doit rendre la chose. » Alors que non, respectons ce que les parents nous demandent.
Ouais, merci pour ça. Et je crois qu'il y a aussi un gros travail à faire sur la gestion des émotions, la colère, de la frustration. Parce que comment... ce serait intéressant en tout cas d'analyser comment des amis, des proches se sentent plus investis en fait de ce besoin de vengeance que les propres parents qui demandent justement à ce que ça s'envenime pas, parce que peut-être aussi le fait d'être parent c'est savoir ce que c'est de perdre un enfant.
Bien sûr, c'est clair.
On n'a pas envie de ça.
Il faut en parler, moi je pense qu'il faut en parler. Vous savez, quand il y a des décès, des fois on dit il y a des cellules de crise, on nous dit plein de choses. Mais la vraie réalité, c'est qu'il n'y a pas que les parents qui sont impactés. Tu as les parents qui sont impactés, tu as les frères et sœurs, tu as les amis, tu as un quartier. Donc, il ne faut pas avoir honte de venir s'asseoir avec les jeunes et essayer de leur faire parler de leurs émotions, de leurs sentiments de vengeance. Parce que la vengeance, c'est un sentiment de parce que tu aimes la personne. On a fait du mal à la personne, tu veux rendre ce qu'on t'a fait. Donc moi je pense que comme tu l'as dit, la gestion des émotions c'est important. Faut pas avoir de tabou. C'est des choses malheureusement qu'on n'apprend pas à l'école, on va pas en parler à l'école. Il faut en parler dans les structures avec les jeunes et pas hésiter à se dire si on a besoin d'aller voir un psy, on va aller quoi. C'est pas une honte.
Non. Juste avant que les garçons mettent les pieds dans la tasse, Milay, t'es community manager, j'ai une vraie question pour toi. Est-ce que la violence fait vendre ? Et du coup, est-ce qu'il y a aussi un intérêt à médiatiser, à mettre en lumière, à rendre fun quelque chose qui fait du mal à la société, mais pour le buzz, pour vendre, pour que justement certains médias puissent exister ?
Ouais, bah complètement, ça fait vendre à 100%. On peut le voir sur les différents types de médias, à la télé, les films qui vendent le plus, c'est les films où il y a de la violence, où il y a de la bagarre, où ça y va, quoi, concrètement. À la radio, pareil, on aime bien quand ça se dispute, quand il y a des tensions. À la télé, quand on regarde des émissions où il y a des chroniqueurs, etc., ça fait plus vendre quand il y a des mésententes entre les gens, des clashs, etc. Sur les réseaux sociaux, pareil.
Ici, ça ne va pas plaire. On n'a pas encore eu de clash à parentalité. Il va falloir commencer à s'embrouiller. Non, mais justement...
Sur les réseaux sociaux aussi, complètement. Ouais. Même parfois, les gens vont pour la provocation parce qu'ils savent que dans les commentaires, bah, ça va se bagarrer un peu, malheureusement. Mais...
Merci pour ça, parce que je crois qu'il y a aussi... on a une responsabilité. On parle de parentalité, de transmission, d'éducation. On a une responsabilité aussi sur le buzz de la violence et quel est l'impact. C'est-à-dire, est-ce que la vie de nos enfants vaut un buzz ? Est-ce que certains adultes, même qui s'adonnent à ces jeux et à mettre en lumière la violence, n'ont pas aussi une part de responsabilité sur l'impact que ça a sur notre jeunesse ? Donc, merci pour ça. Les garçons, vous êtes prêts à mettre les pieds dans la tasse ?
Ouais, toujours.
Allez, c'est parti.
J'ai déjà les pieds mouillés, moi. est-ce que l'État et les parents ne récoltent pas ce qu'ils ont semé de mauvaises graines?
Oh, il parle mal celui-là. Moi, je le connais pas. Mais qui sont les mauvaises graines?
Moi, je pense que l'État et les parents doivent travailler ensemble pour pouvoir gérer la problématique, gérer tous ces problèmes. Parce que, comme on a pu le dire tout à l'heure, c'est que tu peux avoir en tant que parent une éducation à la maison. Il y aura aussi l'éducation de dehors, il y aura aussi l'éducation du quartier, il y aura aussi l'éducation nationale aussi, parce que les jeunes, ils vont à l'école. Donc, je pense que c'est... Moi, je ne suis pas là pour rejeter la faute à gauche, à droite. On est plus là à se dire comment on fait ensemble pour travailler. Parce que même là, quand on voit niveau politique, excusez-moi, hein, mais bon, quand j'entends qu'il y a des réunions qui sont préparées entre les partis, etc., et qu'on n'invite pas nous, les acteurs de terrain, qui sommes confrontés avec les jeunes tous les jours, je me dis... Notre place, elle est où, en fait? Notre place, elle est où? On est toujours avec les jeunes. Toute personne qui est autour de la table, on est H24 en train de travailler avec les jeunes, parler avec les jeunes. Même les éducateurs, ils sont au contact des jeunes. Mais lorsqu'il y a des réunions pour savoir qu'est-ce qu'on doit trouver comme solution, on ne nous invite jamais. Donc déjà, pour commencer, déjà qu'on commence à nous inviter dans ces réunions-là, parce qu'il ne faut pas nous appeler que quand il y a des émeutes, quoi. Quand
ça brûle,
c'est trop facile. Voilà. Quand ça brûle, c'est trop facile de venir nous dire, aller parler aux jeunes.
Juste, je veux rebondir ce que tu disais là, c'est-à-dire que tu parlais d'invitation. Et ben nous, avec Parentalité, on va être à l'initiative d'eux. Ouais. C'est-à-dire que là, on est en train d'essayer de caler une date. Tu es invité et vous êtes invité. On va nous-mêmes faire la démarche de les inviter, eux. Mais ça va partir de nous. Donc, du coup, on aura des acteurs de terrain. Et là, je pense que le diagnostic, il sera un peu plus réel.
Après, même, c'est une bonne initiative, mais ça devrait être le contraire aussi. Pas toujours à nous d'aller les chercher, eux aussi, parce qu'ils savent venir nous chercher quand il y a le feu. Hein. Quand il y a le feu, t'inquiète pas. Quelqu'un qui sort de nulle part, oui, vous voulez faire un projet avec les jeunes? Non, c'est pas que quand il y a le feu qu'il faut venir nous chercher.
Et après, est-ce que finalement, le diagnostic de terrain, il n'a pas aussi vocation à être fait par les gens qui sont sur le terrain? On est dans une société où il faut tout montrer. Faut faire et montrer ce qu'on fait, montrer qu'on existe, qu'on sait faire, notre expertise. Mais est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas du sens quand on s'assoit entre nous, qu'on fait nos réunions entre nous, qu'on pose notre diagnostic, qu'on met en place nos actions, qu'on autofinance nos propres actions et qu'on soit un peu justement
indépendant
et de se dire qu'à un moment donné, on ne peut pas passer notre temps à attendre qu'il y ait des solutions qui soient trouvées pour nos enfants qui meurent tous les jours, même si on a besoin, mais en attendant que la machine se mette en place, je pense qu'aujourd'hui, on est assez puissant. Et peut-être que certains en doutent encore, mais moi, je suis persuadée. On est assez puissant, on est assez en place, on a étudié, on a une expertise, un savoir-faire. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin qu'on vienne nous chercher en nous disant, tiens, je te donne un morceau de bois. C'est, je viens et au milieu du quartier, je déploie ma tente et je fais mes actions. Et c'est à ce moment-là que quand vous viendrez nous chercher, peut-être qu'on aura envie ou peut-être pas. Mais je pense que ce qui nous manque, ce sont des initiatives où enfin on a pleine conscience de notre potentiel. Aujourd'hui, clairement, on a... Moi, personnellement, en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de grand monde, à part de fédérer. Et je crois que là, il y a un gros travail à faire aussi entre nous, des différents quartiers et les différents acteurs, fédérer pour une action commune. Celle où on ne tire pas le drap sur nous, la lumière sur nous, mais vraiment d'être en train d'œuvrer ensemble. Et c'est là où ça devient un peu plus difficile. Brandon, je voyais réagir et ensuite la scène.
Du coup, pour répondre à la question de Barberiche,
T'as pas peur d'y répondre.
Hein. Ah, je vais essayer. Hein. Je ne sais pas si j'aurai la bonne réponse, mais je vais essayer. Il y a quand même quelques familles qui mettent des choses en place, notamment à Villeneuve-Saint-Georges, où il y a des mamans qui arpentent les rues pour discuter avec les jeunes, pour essayer d'arrêter ces phénomènes de violence. Je crois que ça existe aussi à Corbeil-Essonnes ou encore à Champigny-sur-Marne, où là, c'est des papas qui, le soir, viennent dans les rues, dans plusieurs quartiers, qui viennent dans les, pour discuter avec les jeunes sur pourquoi ils arrivent à ce niveau-là, etc. etc. Y a aussi des structures qui du coup, existent, notamment aussi à Torcy, en horaire décalé, qui sont justement présents lorsque d'autres structures ferment, donc en gros, de 18h jusqu'à à peu près 2h du matin, où il y a des médiateurs, des éducateurs qui sont présents le soir pour discuter avec les jeunes, pour essayer de calmer s'il y a des moments de violence qui arrivent. Et notamment aussi pendant les émeutes, où Du coup, il y a pas mal d'éducateurs, animateurs qui sont allés sur le terrain pour justement essayer de protéger les commerces, les structures, les mairies, pour, voilà, pour sensibiliser sur que, en gros, ce qui ça impacte réellement si vous vous cassez, bah, c'est vous. Donc, il y a quand même quelques actions qui sont mises en place de manière, comment je peux dire ça, spontanée. Mmh. Oui, on a quand même un pouvoir d'agir sur... sur ce qui se passe sur le territoire.
Et c'est peut-être aussi ce qui manque le plus, finalement. Moi, je pense que des actions, il y en a vraiment énormément, bien plus que ce qu'on peut imaginer. C'est la mise en lumière de ces actions. C'est-à-dire que quand on creuse un peu, quand on s'intéresse, quand on participe à des réunions et qu'on voit ce que les gens mettent en place, on est même étonné, on se dit mais c'est complètement dingue. Par contre, ce qui manque, c'est le rayonnement et la mise en lumière d'initiatives positives. Et je ne te parle pas d'initiatives de personnes puissantes. C'est deux choses différentes. Il y a celles qui sont puissantes, dont le rayonnement est de fait, parce que beaucoup de followers, etc. C'est, voilà. Mais il y a toutes les initiatives avec des gens qui ne communiquent pas, qui ne savent pas communiquer, qui n'ont pas de budget pour communiquer, et qui même s'en foutent de communiquer parce que ce sont vraiment des acteurs de terrain qui ne sont pas mis en lumière. Et je pense que c'est de ça qui manque dans les médias aujourd'hui, de passer en boucle des initiatives qui fonctionnent pour qu'elles soient dupliquées. Lassana et ensuite Bouba.
Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'il nous manque cette visibilité et des actions comme celle-ci, je pense qu'il faut les mettre un peu plus en lumière, de mettre pas forcément des personnes sur les réseaux qui ont des millions de followers, au final on ne sait pas pourquoi, parce qu'au final ils ne véhiculent pas grand-chose qui vont nous aider. Et pour rebondir sur ça, c'est que tu le dis, il y a des gens qui sont sur le terrain, qui ont une certaine expertise. Pour faire un petit rapprochement sur ça, c'est dernièrement j'ai fait une intervention sur le harcèlement scolaire en milieu urbain et tout ça. Et il y a des mamans qui expliquaient, via leur association, c'est elles qui ont mis fin à des bagarres de cité. Mais si tu ne vas pas vers ces mamans-là, tu ne peux pas le savoir. Donc à un moment donné, ça serait bien que nous aussi, de notre côté, même avec nos petits moyens, qu'on puisse se réunir de temps en temps comme ça. Et puis se forcer, même si ce n'est pas notre domaine, d'aller sur les réseaux et mettre un peu plus en lumière ce que nous faisons sur le terrain.
On disait il n'y a pas longtemps, l'éducation, c'est une affaire de tous, en fait.
Exactement.
Et des fois, malheureusement, certains rayonnent à travers des actions qui sont faites par d'autres. Exactement. C'est-à-dire que ces petites mamans-là qui descendent au quartier et qui font beaucoup de choses, le rayonnement, il n'aurait pas dû... En fait, on ne rend pas à César ce qui appartient à César. Ça veut dire qu'elles sont sur le territoire, elles œuvrent. Mais au moment de prendre la lumière, elles sont invisibilisées. Et je rejoins ce que tu disais, Adama, même pas invitée. Alors qu'au final, si ça n'a pas brûlé, c'est parce qu'il y a des pères et des mères, il y a des frères et des sœurs, vraiment, qui sont là et qui font les choses. Il y a des acteurs de terrain, des professionnels qui œuvrent. Mais au moment des concertations, elles sont invisibilisées. Alors qu'en fait, et ça aussi, ça crée des injustices et c'est une forme de violence, en fait, de pas être reconnue à sa juste valeur par rapport à ce qu'on fait.
Et surtout, faut pas avoir honte de... Tu sais, aujourd'hui, on a aussi un autre problème, c'est qu'il y en a, ils disent « Oui, mais moi, je le fais pas pour le buzz et tout. » Mais personne ne le fait pour le buzz. Mais au bout d'un moment, tu es obligé aussi de montrer ce que tu fais. Parce que si tu le montres pas... les autres ils vont faire à ta place et les autres ils vont le faire même s'ils sont moins sur le terrain. Il y en a, ils sont moins sur le terrain mais très forts en communication. Et c'est ça la réalité, c'est que il faut pas se dire quand tu vas faire une initiative c'est pour le buzz. Non, faut que vraiment on ait des quartiers populaires et autres, on sait qu'on bien avant on faisait des choses, on n'était pas obligé de le montrer, mais aujourd'hui avec l'ère du numérique, l'ère de ce qui se passe, on est obligé. Moi j'ai, on est obligé, même ces mamans qui ne veulent pas montrer, il faut qu'il y a quelqu'un qui vient les voir et qui leur dit non, il faut montrer ce que vous faites, même si on doit flouter vos têtes, on montre votre action, parce que c'est comme ça, c'est
et
comme
c'est
ça malheureusement.
Et c'est surtout qu'en France on a un problème avec le fait de valoriser, d'être valorisé, d'être mis en lumière, alors que en fait, dans la construction d'un enfant, c'est important de le valoriser, et dans la construction d'un adulte aussi. Ça veut dire que tu travailles, tu t'acharnes même à travailler, tu as besoin d'être valorisé dans ce que tu fais et d'être reconnu dans ton expertise. C'est humain. C'est juste que comme on est dans une société de faux cul un peu, quand tu veux montrer ton expertise et la revendiquer, on va te traiter d'être d'avoir un ego surdimensionné, alors que en fait, enfin j'ai bossé, je bosse.
Et c'est ça le problème qu'on a, on est en retard comparé aux States.
J'allais dire ça, est-ce que c'est pas un problème français?
C'est un problème français, on est en retard, mais bon. Bouba,
qu'est-ce que tu dis de tout ça?
Il est pensif.
Et puis en plus, on parlait d'initiative. Nous, vendredi, on a quand même rencontré Réseau de quartier qui justement, vont venir nous rejoindre sur l'émission un peu plus tard pour parler de leur initiative. Ça veut dire qu'il y a des initiatives comme ça. Là, on est dans le 13e. On les a rencontrées comme ça à l'improviste. Et du coup, elles vont venir nous rejoindre au cours de l'émission. Bouba.
Moi, je dois rebondir un peu sur tout ce que vous avez dit avant de poser ma question. Tout à l'heure, on parlait de, d'un certain pardon que des familles devraient, comment dire, ça fait écho un peu à ce qui s'est passé au Rwanda et en Afrique du Sud, tu vois, la politique de Nelson Mandela où il y avait plein d'initiatives qui étaient mises en place. Et là, récemment, j'ai vu un reportage sur le Rwanda où carrément il y a des villages qu'ils ont mis en place, ou même en Afrique du Sud, où les gens carrément vivent ensemble et vivent à côté des gens qui ont tué leur famille, tu vois. Après, je pense que pour arriver à ce stade de pardon, il va falloir du temps pour nous. Je voulais rebondir aussi sur... tout à l'heure, Amine, tu parlais de... plus ou moins d'avoir un esprit fort ou un esprit faible. Tu vois. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est la politique de l'esprit fort et de l'esprit faible.
Exactement.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, le plus fort, c'est celui qui arrive à dire non. Tu vois. Et le plus faible, c'est celui qui arrive à se faire engrainer par tout le monde. Tu vois.
Bah ouais.
Et je voulais rebondir aussi très rapidement sur... Tout à l'heure, on parlait des partenaires, tu parlais des instances.
Ouais.
Et on sait qu'il y a des partenaires historiques et il y a des partenaires historiques mythos, en vérité. Tu vois,
bien
sûr. Les instances, c'est des gros mythos, ils sont là, ils font style que... Enfin, ils participent à des instances et ils arrivent à se faire passer pour ceux qui travaillent pour les quartiers alors qu'on ne les voit jamais dans
parce
les quartiers.
Parce qu'ils écrivent bien.
Ouais, c'est ça.
Bon, en tout cas. Ouais. L'idée de parentalité, c'est d'être détendu autour d'un thé. On a Latifa qui vient de nous rejoindre et Adama qui va devoir aussi.
Mais je veux la dernière question de Bouba avant de partir.
Ouais, mais tu vas avoir la dernière question. Mais en tout cas, c'est juste pour préparer les auditeurs au fait qu'il va y avoir quelques changements au niveau du plateau, ce qui est normal parce que on est engagé, mais on travaille aussi à côté. Hein. C'est bien beau de parler, mais du coup, bonjour Latifa.
Bonjour à tous.
Tu vas bien? Est-ce que tu veux bien te présenter?
Oui, je m'appelle Latifa, j'ai 48 ans, je suis maman de 4 enfants, de grands enfants et puis une petite dernière de 11 ans. J'habite le secteur puisque je suis sur l'avenue de France, secteur BNF. Et je viens ici parce que, aujourd'hui, pour représenter l'association Réseau Quartier, je ne sais pas si vous la connaissez.
Non, mais on va en parler juste après. Ouais. Merci à toi, Latifa, de venir nous rejoindre. Bouba, ouais, pose ta question pour que Adama puisse aller travailler.
Ouais, voilà, je... Vite fait, avant de poser ma question, très rapidement, tout à l'heure, on parlait des enfants. Et je pense qu'à un moment donné, il y a plusieurs éducations. Et voilà, comme je ne sais plus qui disait comme quoi, à un moment donné, ben, l'éducation des parents, elle est confrontée à l'éducation de l'extérieur. Et du coup, moi, je pense qu'on est dans une grande sauce, c'est-à-dire mondiale, internationale, dans la mesure où ben, nos enfants baignent avec diverses influences, comme les séries, comme... Top Boy, Snowfall, ce qui marche le mieux, tout à l'heure tu le disais, ce qui marche le mieux, c'est ces séries qui marchent le mieux. En plus, elles sont super bien réalisées, super bien produites. Donc du coup, c'est la bande originale de plein de gens.
Mais c'est là où il y a la représentation aussi.
C'est ça, exactement. Et du coup, on est dans une société qui est très frénétique. C'est-à-dire qu'on a beau fustiger les parents, mais on est dans une frénésie. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête jamais. Là, on va sortir d'ici, on ne va pas s'arrêter. Tu vois, et jusqu'à quand? Et jusqu'à ce qu'on soit fatigué et du coup,
jusqu'à ce que mon compte soit blindé.
Tu vois, et les parents vivent dans un contraste. Tu vois, ils viennent du pays, ils arrivent ici, mais ils sont dans un contraste depuis 40 ans. Ils sont là en train de vivre tout un espèce de contraste. Et voilà, maintenant, finalement, je vais poser ma question parce qu'il faut que je la pose, cette question. en fait, moi, ce que je me dis, c'est que tout à l'heure, je disais que vu qu'un enfant passe plus de temps à l'extérieur que chez lui, moi, à un moment donné, j'étais dans un questionnement. Je me disais que, est-ce que l'éducation nationale devrait s'appeler l'éducation nationale ou l'instruction nationale? Parce que normalement, les enfants sont censés être instruits à l'école. Mais après, des fois, moi, j'ai des débats avec moi-même. Hein, je débat avec moi-même et je me suis dit, non, frère, non, en vérité, vu que l'enfant passe plus de temps dehors, enfin, à l'extérieur, il faut continuer à appeler l'éducation nationale, mais il faudrait qu'il y ait des cours d'éducation, parce que je pense qu'il faudrait que l'école assume et contribue pleinement, assume pleinement son rôle d'éducation, qui sera un complément à l'éducation des parents à la maison.
C'est génial ta question, Bouba, parce que du coup, clairement, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter une discipline,
c'est ça.
Dans en tout cas le programme de l'éducation nationale, qui ferait qu'on arrête de dire l'école est là pour instruire et les parents pour éduquer, puisque force est de constater que les deux s'entremêlent. Donc, on est là aussi pour éduquer, mais du coup, il faudrait avoir une discipline clairement identifiée, éducative, mais aussi que les parents déposent l'autorité. Ce qui demande de travailler cette question de défiance et de confiance entre l'école et les parents pour être sûr que je te dépose mon enfant et l'autorité qui va avec parce que je suis certain que tu feras les bons choix dans l'intérêt de mon enfant. Ce qui aujourd'hui pose question. Il y a beaucoup de parents qui ont un doute sur la capacité des adultes au sein de l'éducation nationale à faire preuve de bon sens par moment.
En fait, il faut armer l'éducation nationale pour qu'elle éduque les parents.
Ouais, juste Adama, parce que je ne vais pas te laisser.
Je peux répondre à sa question.
Réponds et après moi j'ai une question pour toi.
Vas-y, ok. Effectivement, moi je pense que l'école, même il y a pas longtemps, j'ai fait une émission avec une prof où on parlait de la justice des mineurs et de la méconnaissance de ce que les jeunes ne savent pas réellement la loi des mineurs, etc. Et j'ai dit normalement dans le programme, arrivé à un certain âge, c'est-à-dire en quatrième parce que c'est l'âge 13 ans où ils sont responsables pénalement, je me suis dit. Normalement, dans le programme, il faut quelques heures pour parler de la justice. On m'a répondu, oui, mais déjà, on a déjà trop de cours, etc., etc. Mais en fait, on parle de quoi ? Il faut se revenir aussi à une réalité, c'est que même s'il y a beaucoup de cours, je sais que les profs sont beaucoup sollicités, mais on ne peut pas demain reprocher aux jeunes d'ignorer la loi si on leur instruit pas la loi, parce qu'on va nous dire, nul n'est censé ignorer la loi. Oui, mais à partir de quel moment un jeune, il va se dire par lui-même, bon, je vais aller me renseigner au niveau de la loi, à partir de quel âge je suis responsable pénalement, à partir de quel âge je peux aller en prison. Donc déjà, ça aussi, c'est une réalité. Je sais que peut-être l'éducation nationale a pas mal de travail, ben, qu'ils fassent appel à des associations, comme nous tous qui sommes autour de la table, pour vraiment poser ces choses-là et commencer à instruire les jeunes sur ce volet justice parce qu'il y a une réelle méconnaissance de la justice des mineurs chez les mineurs.
Question que je propose à tout le monde. Doit-on punir les parents de mineurs délinquants ?
Mais punir les parents des mineurs délinquants donc on va punir un parent qui a bien éduqué son enfant à la maison. Donc on va punir ce parent, on va lui dire quoi ? Donc dans ce cas-là, c'est un échec total. Ça veut dire si on punit les parents, on punit aussi l'environnement, on punit tout le monde. Parce que l'enfant, comme dirait ce proverbe africain, pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Donc si on doit punir, on va punir qui ? Tout le village ? Tout le village chez qui ? C'est ça la réalité, c'est punir. Moi, j'ai dit oui, punir les pères démissionnaires, les pères qui abandonnent les enfants, qui font leur vie. Je suis dur avec eux. Oui, ben il y a pas de
répondre oui en fait.
Non, mais moi, punir les pères, parce que avec beaucoup de jeunes que j'ai pu rencontrer, quand on creuse et que ça commence à parler du papa, on a des jeunes qui ont la haine, des jeunes vraiment qui se sentent abandonnés par leur père. Les pères, ils ne prennent pas les gardes quand c'est les gardes. Ils ne payent pas de pension, etc. Pour moi, ces papas-là qu'ils ont laissé les enfants dans la rue, oui, on doit les punir, pour moi.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une incompréhension ? Parce que quand on dit « doit-on punir les parents ?», souvent, on dirait que dans la conscience collective, les parents égalent les mères.
Ben, souvent, c'est ça.
Non, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas justement une déformation dans même notre compréhension des choses ? C'est-à-dire que quand on dit les parents, souvent on entend les mères. Or, les mères, 80% du temps, elles font le boulot. Donc, en fait, ce n'est pas d'elles dont il s'agit.
Oui, bien sûr.
Quand on dit les parents, on parle peut-être justement de ces pères démissionnaires.
Mais souvent.
On parle peut-être de ces pères qui ne prennent pas part à l'éducation. Mais aussi, en France, il faut savoir que dans le mot parent, c'est qui ? Et peut-être qu'il faudrait définir qui est parent. Est-ce que c'est celui qui met au monde ? Est-ce que c'est celui qui éduque ? Est-ce que c'est la tante, l'oncle, le tuteur ? Et du coup, si on élargit cette réponse, et ben peut-être qu'on serait tous d'accord pour dire oui. Parce qu'en fait, faut-il punir les adultes, tous les adultes qui sont en responsabilité, en charge de l'éducation des enfants quand il y a défaillance ? C'est-à-dire du professeur au professionnel qui n'a pas fait le signalement au moment voulu, aux parents à l'intérieur de la maison. Mais en fait, il faudrait élargir. Ça veut dire que si c'est de la coéducation et qu'on est tous d'accord sur le fait qu'éduquer un enfant, c'est tous ensemble, et ben, au moment de la sanction, ça doit être tous ensemble. C'est-à-dire, à l'école, bah, vous n'avez pas repéré ça. Au centre d'animation, vous aviez cette information, vous ne l'avez pas donnée. Vous, le parent, vous n'avez pas fait ça, etc. Et en fait, c'est que tout le monde prenne sa part.
Non, mais c'est clair. Et moi, pourquoi on dit souvent ? Parce que c'est un constat, en fait, qu'on fait. C'est que souvent, c'est les mamans, elles sont là. Demain, il y a des manifestations, il y a des marches blanches, il y a des rassemblements. Les mamans, elles sont là. Demain, l'enfant, il doit passer en conseil de discipline. Souvent, c'est les mamans qui sont là. Demain, le fils, il est au parloir. C'est les mamans qui vont au parloir. Donc, on ne peut pas dire que les mamans, aujourd'hui, abandonnent leur enfant. Elles ont porté leur enfant. Peut-être il y a ce truc-là aussi, qu'elles ont porté l'enfant, elles ont... Je dis pas que les pères ils s'en foutent. Je suis pas là vraiment. Moi-même je suis père séparé, mais moi je prends mes responsabilités en tant que père. Moi je peux pas laisser ma fille dans la rue à être éduquée par qui n'importe qui. Moi j'essaye d'être derrière. Et même si demain si j'avais été aussi en conflit avec la maman, j'aurais fait en sorte d'avoir ma garde, d'avoir mes responsabilités en tant que père. Il faut pas parce que avec la maman ça va plus ou etc. Parce qu'il y en a après, ils préfèrent plus prendre la tête. Ils disent, vas-y, garde ton enfant. Moi je pars. Mais je dis pas que le père n'aime pas son enfant toute sa vie. Mais il va se dire, bon, la mère elle va gérer, elle veut gérer, elle a qu'à gérer. Non, moi je pense qu'il faut, quand on fait un enfant à la maternité, on donne un carnet de santé, faut le mode d'emploi aussi pour les parents.
Amine, toi t'es jeune, du coup t'as 18 ans, qu'est-ce que t'en penses ? Tout à l'heure tu parlais de la conscience, la liberté de penser. Du coup, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que toi tu penses que les parents doivent être sanctionnés quand un mineur commet un acte de délinquance ? Ou est-ce que t'es pas du tout d'accord, mitigé ? Et ensuite Latifa qui est aussi maman, on se retournera vers toi pour savoir ce que tu en penses. Entre temps, on fera une petite pause pour que Adama puisse aller travailler.
Ok, j'écoute tout le monde, après je pars, je file.
Ok, bah pour moi ce qui doit être puni c'est l'abandon. C'est la seule chose qui doit être punie. Tu peux pas punir une mère parce que un enfant il a fait une connerie dehors, alors que ça se trouve elle à l'éducation elle gère très bien, comme j'ai dit tout à l'heure, et Bouba était d'accord avec moi. On a le libre arbitre, on a le bien et le mal en nous. Et moi, je vais pas aller en prison parce que ma mère, elle a fait une dinguerie, t'as vu ou pas ? Même si c'est pas moi qui l'ai éduqué, mais pour moi, non. C'est l'abandon qui doit être puni. Si demain, t'abandonnes ton enfant, tu le laisses livrer à lui-même, bah ouais, tu mérites la prison, tu mérites une peine, forcément, ou tu mérites une sanction, qu'on te retire ton enfant définitivement, qu'on t'interdit de lui parler, qu'on t'interdit de le voir. Parce que on peut pas faire naître un enfant. On le fait naître par choix ou des fois par erreur. Mais s'il est là, il faut que tu assumes.
Et du coup, dans ce que tu dis, il y a quelque chose de fort qui résonne dans les droits et les devoirs des parents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que qui vérifie ? Parce que nul n'est censé ignorer la loi, mais en vrai, est-ce que les parents sont vraiment conscients de tous leurs devoirs ? Parce qu'il y a l'abandon dont tu parles, mais l'enfant, on doit le nourrir, subvenir à ses besoins, de toute façon... en tout cas que ça soit d'un point de vue physique, mental, psychologique, le droit à l'éducation, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents peut-être qui ne connaissent pas aussi tous les droits et les devoirs en fait des parents, donc c'est difficile d'appliquer quelque chose qui comme si c'était inné. Il n'y a pas d'école des parents, il y a des gens qui mettent au monde et ça ne fait pas de toi un parent.
Bah, je pense que maintenant en 2024 à ce sujet-là c'est assez bien évolué dans le sens où maintenant il y a des structures, des foyers qui accueillent les enfants qui sont dans le besoin. Moi ma mère elle travaille dans ça. Elle est directrice de plusieurs structures. Et bah moi, je les vois, ces enfants qui ont été abandonnés par leurs parents. Il y a des cas très difficiles, très, 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 très difficiles même, où on se dit que comment cette personne peut avoir le droit de donner la naissance et faire autant de mal à un enfant qui n'a rien demandé. Mais cet enfant, il a été récupéré et maintenant, il est entre de bonnes mains. Il a une bonne éducation au sein du foyer avec les éducateurs qui prennent soin de lui. Il a son activité, il va à l'école, il rentre, il mange, il manque de rien du tout. Mais il y a maintenant, on a la chance, et ces enfants ont la chance, de pouvoir avoir une sorte de petite issue de secours quand ils ont cette chance. Ouais. Des fois, bah, ça passe pas parce qu'on va pas savoir ce qui se passe chez toi, parce qu'il y a des enfants qui parlent pas, mais ça finit par se savoir.
Merci Amine. On va écouter Latifa. Donc Latifa, l'idée était de savoir justement, bah, qu'est-ce que toi t'en pensais ? Faut-il Faut-il punir les parents d'enfants mineurs qui posent des actes de délinquance? Qu'est-ce que tu en penses? Parle bien dans le micro surtout.
Oui, je voulais juste revenir avant sur la question qui avait été posée par Bouba. C'est ça?
Oui, vas-y.
Concernant le fait que l'éducation nationale éduque nos enfants à l'école. Et l'idée de peut-être une matière qui pourrait effectivement être autour de cette question-là. Moi, j'ai fait des études pour devenir enseignante. Je l'ai été, mais pas très longtemps, parce que voilà, je n'ai pas été au bout, si je puis dire. Mais de ce que j'ai vu de la formation des enseignants, moi, je n'ai vu aucune discipline, aucune matière sur cette thématique-là. Les enseignants ne sont pas préparés à éduquer nos enfants. Ils sont préparés à les instruire. Ils ne sont pas préparés à les éduquer. Donc, tout dépend, en fait, de sur qui on tombe, finalement. Mmh. C'est un peu...
Après, il faut reconnaître quand même que ce sont des métiers bien différents. C'est-à-dire tous les métiers qui sont liés à l'éducatif, qui relèvent plutôt de l'éducateur, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, animateur socio-éducatif. Et l'enseignant qui, lui, fait le choix d'un métier pour instruire une discipline. Et en fait, c'est la société qui a bougé, qui les oblige à développer un champ de compétences plus large. Ouais, et c'est ça, peut-être, qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire que la société ayant cheminé, elle a bougé. On est obligé d'adapter, en fait, les métiers, ou sinon, il faudrait renforcer, donc dans les établissements scolaires, des personnes qui ont la mission et le métier d'éduquer. Voilà, et en fait, formation. C'est l'un ou l'autre. Mais on ne peut pas se dire que les enfants ont besoin d'une continuité éducative et se retrouver avec des professionnels qui partent du principe que ce n'est pas leur mission.
Après, c'est vrai que l'école, elle est malade, on le sait tous. Tu vois. elle est très malade, elle est sous perfusion même. Tu vois.
Elle est dans le coma, non?
Dans le coma, elle est dans un coma très profond. Et du coup, moi, je viens d'une époque où il y avait des... Je crois que ça existe toujours, les cours d'éducation civique, me semble-t-il.
Oui, encore.
Et autrefois, il y avait des cours de morale, même, carrément, tu vois.
Est-ce que tu as connu ça, Amine? Cours d'éducation civique et éducation morale?
Cours de morale.
Non, je pense pas.
Ouais, c'est un peu
ça. Ouais, c'est en histoire.
Ouais, maintenant, c'est en histoire que vous faites ça.
Ouais, c'est ça, je l'ai connu.
Vous faites l'éducation civique et morale?
C'est ça, la matière, c'est ça, éducation civique et morale.
Ouais, ok, ça y est, ça.
En fait, c'est intégré au cours d'histoire maintenant.
Quand j'étais au collège, au lycée, ça, je le voyais pas, mais au collège, je l'ai vu.
Je crois qu'au lycée encore, parce que moi, en tout cas, en 2024, ma fille, elle est en seconde, elle le fait, mais c'est intégré au programme d'histoire.
Ouais.
Après, il y a aussi un projet, je crois, qui est porté par l'éducation nationale, justement pour essayer de répondre à cette question d'éducation par tous, qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, Cité éducative, où justement, dans différents territoires, ils intègrent à la fois l'école, les structures jeunesse.
Après, c'est pas éducation nationale, mais c'est effectivement, ce sont les préfectures qui ont déployé des cités éducatives, des projets de réussite éducative, qui viennent, on va dire, renforcer. Parce que justement, on s'est rendu compte qu'il y avait une carence et que certains enfants, en fait, dans leur contexte environnemental, ont des fragilités et des difficultés qui ne leur permettent pas d'accéder aux apprentissages. Ce sont des réels freins à apprendre. C'est-à-dire quand on se rend compte qu'il y a un problème de santé, qu'il y a un problème, une carence éducative ou autre, bah, le gamin, quand il arrive à l'école, il ne peut pas apprendre. Et du coup, la mission de ces projets de réussite éducative et de ces cités éducatives, comme tu dis, Brandon, c'est vraiment de faire le lien entre l'école, les partenaires associatifs, les structures comme celle dans laquelle tu travailles, mais aussi des professionnels de santé pour que tout soit coordonné et cohérent dans le parcours et l'accompagnement du gamin.
Parce que vraiment, le propos que j'avais tout à l'heure, c'était vraiment qu'il y ait une coéducation entre l'éducation à la maison et l'éducation à l'école. Vu que nos enfants, un enfant, il passe beaucoup de temps dehors.
Mais comment c'est possible quand il n'y a pas de confiance?
Après, maintenant, il faut des moyens.
Non, mais même, est-ce que toi, tu as confiance? C'est-à-dire, est-ce que tu as confiance pour déposer ton enfant, l'autorité, et te dire que la personne qui est en face de toi va coéduquer ton enfant quand des fois, tu déposes ton enfant à un enseignant ou à un professionnel, même un animateur, hein? Même quand tu le regardes, tu dis, mais moi, je ne veux pas que tu éduques mon enfant.
Quoi qu'il en soit, on le fait quand même. Il y a des enfants, moi, je me souviens, quand je faisais du périscolaire, après, j'enchaînais avec un travail d'animateur, les enfants, ils étaient déposés de 7h du matin jusqu'à 19h. C'est-à-dire, en fait, ton enfant, tu le vois le matin pour qu'il se réveille, quand c'est pour l'habiller et tout, et tu le vois le soir, 2-3h.
Mais quand tu vois le professionnel qui va s'en occuper, fois, tu as peur. C'est parce que tu n'as pas le choix.
Je parle de moyens humains, moyens physiques.
Ouais, mais est-ce que c'est... Moi, j'ai toujours cette réflexion, excusez-moi, mais est-ce que c'est leur rôle? Parce que moi, je pars d'un principe. Hein. C'est-à-dire qu'un enfant, si on l'éduque bien, un enfant, lorsqu'il sort, il sait faire la part des choses entre le bien et le mal. Fin. C'est-à-dire que si, par exemple, parce qu'on a plusieurs enfants, parce que souvent, on me sort toujours le même exemple. Oui, mais dans une fratrie, il y a plusieurs enfants, il y en a un qui est bien et un qui est mauvais. Et ça veut dire que celui qui est mauvais, on n'a pas eu forcément la même éducation qu'avec ceux qui ont été bien.
et on s'en rend compte dans les grandes familles où au départ on serrait les enfants et les derniers on est un peu plus indulgent avec eux. Mais donc ça veut dire que l'éducation elle n'est pas du tout la même avec les aînés et les plus petits.
Au-delà de les aînés ou des petits, c'est que chaque enfant individuellement il est différent.
Bien sûr.
C'est-à-dire que l'éducation normalement c'est du sur mesure.
Exactement.
Voilà, c'est vraiment ça. Exactement. C'est-à-dire que moi j'ai 4 enfants, ils n'ont pas reçu la même éducation.
D'accord.
Parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, ils ne sont pas les mêmes individus. L'un va avoir davantage peut-être besoin de resserrage, l'un va avoir besoin de plus d'explications, de plus de discuter, de disponibilité. L'autre, peut-être juste en 2-3 mots, il aura compris ce que j'aurais voulu dire, ça aura été imprimé, on passe à autre chose. Donc voilà, c'est du sur-mesure.
Exactement.
C'est du sur-mesure au quotidien.
Voilà, parce que en fait, moi je trouve, en tout cas...
Milay, après, insère-toi, parce que depuis tout à l'heure, tu veux parler.
Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de parents qui se dédouanent et qui, à un moment donné, oui, mais c'est l'éducation nationale, oui, mais à l'école, oui, mais il passe le clair de son temps dehors. Maintenant, on sait qu'il y a des âges où les enfants se cherchent. Donc, on ne va pas dire que les enfants... C'est normal, en fait, qu'un enfant se cherche et fasse des bêtises, c'est normal. Mais lorsqu'on part dans quelque chose de gravissime, il y a forcément des problématiques internes qu'il faut résoudre. Et à un moment donné, pour moi, c'est que le parent a été défaillant. Après, moi, je ne tape pas sur les parents parce que les parents aussi ont eux-mêmes leurs problématiques.
Exact.
Mais pour moi, c'est qu'il y a eu une défaillance qui part de la cellule familiale. Parce que normalement, et nous, on était comme ça. C'est-à-dire qu'un enfant, à l'époque, lorsqu'il allait à l'école, il se comportait en élève. On est bien d'accord. Parce qu'à l'école, on lui expliquait, voilà, quand tu vas à l'école, tu vas devoir donner la main, tu vas devoir faire ci, le professeur, il va parler, tu vas devoir expliquer, tu vas devoir écouter. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, il y a des enfants qui arrivent à l'école, ils ne se comportent pas en élève. Et il y a même des parents qui vont dans le sens de l'enfant. Donc moi, je suis mitigé avec cette histoire d'éducation nationale.
Milay et après Bouba.
On dit qu'on éduque les enfants, mais je pense qu'il faut aussi éduquer les parents.
Merci.
Être parent, c'est...
On peut l'applaudir ou pas.
Elle a pas beaucoup parlé, mais elle a sorti une punchline, la meilleure.
Direct.
C'est ça. Être parent, c'est pas facile au quotidien. Et puis ça... Comme t'as dit tout à l'heure, c'est pas inné. C'est pas quand t'accouches, ça y est, tes parents, tu connais toutes les règles, tu sais tout ce qu'il faut faire, etc. Il faut les accompagner, il faut savoir accompagner les parents dès la naissance ou même avant la naissance, pendant les grossesses, etc. Ou quand ceux qui ont le projet de devenir parents, les apprendre à être parents, comme tu disais aussi, les enfants, c'est au cas par cas. Tu ne peux pas éduquer tout le monde de la même manière, ça ne fonctionne pas. Même à l'école, on le voit. Tu ne peux pas apprendre de la même manière à tous les enfants, ça ne fonctionne pas.
Un peu comme il y a les cours de préparation à l'accouchement, il devrait avoir des cours de préparation à la parentalité. Et justement, il n'y a pas de recette miracle. Éduquer un enfant, c'est un travail de tous les jours. Et en plus, tu ne sais même pas si tu l'as bien ou mal éduqué jusqu'à ce qu'il devienne adulte. C'est bien plus tard que tu le verras parce que l'éducation, elle se poursuit après l'âge adulte. Ça veut dire qu'en fait, tu sèmes des graines, mais tu ne sais pas ce que ça va donner. Par contre, ce qu'il faut, c'est rester motivé pour recommencer, pour innover. Arrêter de nous faire culpabiliser et justement il y a arrêter de nous faire culpabiliser, mais il y a aussi l'importance de nous dire des fois ce qu'on a fait c'est pas la bonne chose à faire. On est personne pour juger, mais force est de constater que des fois on n'a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour dire à quelqu'un mais c'est pas normal de frapper son enfant, c'est pas normal de le ridiculiser, et aujourd'hui on a l'impression que même ça c'est faut pas le dire. En fait, tu vas voir un enfant frapper, un parent frapper son enfant, et limite, faudrait pas lui dire qu'il y a d'autres solutions. Parce que c'est culpabilisant, parce que c'est la seule solution qu'il a. Mais on peut aussi dire à ce parent, peut-être que c'est la solution que tu as aujourd'hui, quelle va être à la croisée des chemins, une façon de réfléchir pour faire différemment. Et là, il n'y a rien de mal, en fait, de dire ça, c'est ce qu'on t'a appris et c'est ce que tu connais. Par contre, voilà, ce qui est prouvé, et même les anciens en reviennent de ces méthodes, c'est que les coups n'éduque pas. Donc, maintenant que ça c'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire entre ta culture, ta vision, ton envie, tes outils, ce qui pourrait être bénéfique, ce qui a été prouvé scientifiquement, humainement parlant, dans le monde entier, en fait. On voit très bien aujourd'hui, dans certaines zones de guerre, les effets néfastes de la violence sur l'éducation des enfants. Donc, en fait, c'est pas une théorie européenne ou française. Latifa.
Quand bien même on aurait un mode d'emploi à la naissance.
Ça marcherait.
Quand bien même on aurait un memento sur comment éduquer ses enfants. La société dans laquelle on vit, elle évolue à une vitesse grand V.
Trop.
Elle évolue encore plus pour ceux qui viennent d'ailleurs, qui ont posé leurs valises ici. Donc comment ces gens-là qui ont... Parce que l'éducation, c'est aussi ce qu'on a reçu, qu'on transmet. C'est ça, la base. Après, il faut transmettre avec ce qu'on est, il faut transmettre avec l'environnement dans lequel on est. Et des fois, il y a un énorme fossé, un énorme décalage. Donc, quand bien même on aurait ce memento, cette manière de faire au début, eh ben, au final, c'est très compliqué. Et je crois qu'il faut apprendre en tant qu'individu soi-même déjà à se remettre en question pouvoir vraiment dans la quotidienneté faire face à l'éducation de ses enfants, aux questions des enfants. Et Dieu sait qu'ils en ont beaucoup. Et que des fois, on ne sait pas forcément quoi répondre.
C'est un peu ce que Amine disait, Bouba, excuse-moi, c'est un peu ce que Amine disait, en fait, finalement. Est-ce que ce qui compte pas, est-ce que la base, qu'on n'oublie pas, c'est si tu sais faire la différence entre le bien et le mal. Si tu sais ce qui est bien et ce qui est mal, reste, en fait...
Oui, mais regardez, bien sûr, moi, quand je parle de coéducation, c'est une utopie. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une utopie. Mais comme on est tous confrontés à un public qui connaît plus le bien et le mal... Hein. Moi, je vous sors des exemples de personnes qui disent comme quoi vendre de la drogue, c'est bien à partir du moment où tes parents ne le savent pas. Vendre de la drogue, c'est bien à partir du moment où cet argent, tu l'utilises pour le bien. C'est-à-dire, je vous parle de personnes qui ont 25 ans, 24 ans, 18 ans, 16 ans, 15 ans. Et bien sûr que la faille vient, bien sûr, elle doit très certainement venir du cocon familial. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est que nos enfants sont sous influence, nous sommes sous influence. Sous influence des réseaux sociaux. Comment on peut empêcher nos enfants d'être sur les réseaux sociaux, sur TikTok? Après, c'est possible. Hein, parce que vraiment, si tu t'optes pour un autre style de vie, tu peux. Mais c'est assez compliqué de l'appliquer même dehors. Parce que ton enfant, forcément, il sera influencé par d'autres. Sous influence des séries. Il y a des... Amine, on connaît des jeunes sur Massy qui sont très gentils. Mmh. Ils connaissent le jargon et le champ lexical de la Bicrave. Sans... être dedans. Mais
il y a un dictionnaire en plus.
Ils savent ce que c'est qu'un tartin.
Mais est-ce qu'ils vendent?
Ils vendent pas.
Non. Mais le fait de savoir, c'est pas grave parce que ça fait partie de leur environnement, des codes.
Mais ils
vendent pas.
Je veux dire que là où c'est grave, c'est parce qu'il y a une part de responsabilité aussi de ce qu'ils écoutent. C'est pour ça que je dis qu'on est sous influence.
Oui, mais là, il y a le discernement.
Oui.
Pour revenir à ce que disait Amine, c'est-à-dire que peut-être ils connaissent les codes, les noms. Mais ils vendent pas, donc ils ont fait le choix de ne pas embrasser cette...
Ouais. Nous, on les connaissait pas, tous ces codes-là.
Ouais, mais...
Parce que le rap d'aujourd'hui, il véhicule des choses. Vous voyez tout ce qui... Il véhicule tout un champ lexical normalement, un gars qui est dans les études ne devrait même pas connaître.
Bah, ce champ lexical, maintenant, tu le vois partout, dans les séries, dans les films, dans les sons. Tu le vois sur les réseaux sociaux, on y revient encore une fois sur les réseaux sociaux. Tu les vois maintenant même sur BFM TV. Mmh. Ils vont faire interviewer des mecs qui vont parler avec ce champ lexical. Ils vont te lâcher des mots comme bicrave, terre, que des trucs comme ça.
Que des mots qu'on connaît pas à la base.
Que même un mec qui vient du 45, qui dans une zone pavillonnaire où il y a zéro bicraveur, rien du tout, bah, il va me parler comme nous on parle dans le 93, dans le 91 ou dans le 92, tu vois.
Et pour finir, vraiment, il y a un certain nombre d'influenceurs là. Qui est vraiment une influence, c'est quelque chose, hein, tu vois, sur l'esprit, la télé-réalité. Là, bientôt, il y a Secret Story qui reprend. Hein.
Avec que des influenceurs.
Et ça va être un ravage pour le cerveau de certains.
Non, mais là, il y a un parentalité spécial, Secret Story. Brandon et Lassana, pour le mot de la fin. Ensuite, on devra rendre l'antenne, on continuera en off. Brandon, qu'est-ce que ton mot de la fin sur tout ce que tu entends sur ce constat et peut-être finir avec deux, trois initiatives qui pourraient être intéressantes pour faire reculer, en tout cas à minima, essayer de faire reculer ou en tout cas d'outiller certains à travailler contre cette violence en fait, qui se multiplie.
Bah déjà, il y a beaucoup de boulot, beaucoup, beaucoup de boulot. Et puis les initiatives, encore une fois, moi je pense qu'il faut que les parents investissent davantage les espaces que fréquentent les jeunes. Par exemple, dans le cas de Paris, dans le 13e, donc, les structures d'animation, les clubs sportifs, que les parents s'impliquent beaucoup plus aussi dans le suivi des scolaires de leurs enfants pour essayer d'atténuer un peu ce phénomène des RICS, qui est quand même assez ancien. Et je pense qu'il faut aussi mettre pas mal en place de projets d'échanges et de rencontres entre interquartiers, pour essayer de casser un peu ce sentiment d'appartenance à un quartier, à un territoire, etc. etc.
Merci, Brandon. Lassana ?
Pour venir, je dirais dans son sens, hein, c'est exactement ce qu'il faut faire. Comme aujourd'hui, des initiatives comme celle-ci, où on a différentes générations qui se rencontrent, différentes expériences qui se rencontrent. Et puis, à partir de là, on peut déjà se comprendre. Je pense que c'est la base, se comprendre, savoir ce qu'on pense et ce que pensent les autres et trouver des solutions. Et aujourd'hui, on voit bien par Latifa, c'est qu'il y a des associations qui se bougent et qui permettent de se rassembler plus d'une fois, entre guillemets, dans le mois pour pouvoir faire des actions qui vont nous aider dans ce sens-là.
Merci, Amine. Tourner des films.
Comment ?
Tourner des films, encore des films et des films.
Ouais, je vais vous laisser sur ça, moi aussi. Hein, tourner des films et encore des films. Merci.
Merci. Latifa, et puis ensuite, on rendra l'antenne.
Oui, bah écoutez, moi, c'est ma première fois ici avec vous, donc je suis très contente de vous rencontrer. Je connaissais déjà Brandon, du coup. Donc voilà, et je pense qu'effectivement, on est dans le même quartier et en même temps, ce n'est pas tout à fait non plus le même quartier. Donc, je pense que ça aussi, c'est très important. Il faut vraiment arriver à ce que les gens puissent se retrouver, se rencontrer, se échanger. Enfin, il n'y a pas mieux que de pouvoir échanger avec les autres. Mmh. Et c'est vrai que nous, à travers notre association, mais comme à travers d'autres associations ou ces lieux de rencontre où se rencontrent les jeunes ou les moins jeunes, c'est important. Voilà, vraiment, la parole, elle est pour moi... très importante à tout âge.
Bah, merci à tous, merci d'être venus, merci à Mon Paris FM de nous recevoir comme toujours. Comme on aime dire chez nous, personne ne doit rester à l'arrêt, et c'est parce que justement vous venez partager ce moment avec nous autour d'un thé qu'il est agréable et que chacun peut se mettre en action. Merci à tous, au revoir, à plus tard, ciao.